Radio Courtoisie.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national. À Paris sur 95 MHz 6, à Caen sur 106, à Chartres sur 104.5, à Cherbourg sur 87.8, au Havre sur 101.1, au Mans sur 98.8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS, et pour le monde entier sur le site internet tv-radio.com. Vous écoutez le libre journal de Serge Bekech avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 8 janvier de 18 à 21h, en différé jeudi 9 dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal est réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Elle comprend l'abonnement annuel au courrier de Radio Courtoisie. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82.
Amis de la dissidence, bonsoir et bonne année à tous.
On a encore,
on a encore le droit de le dire pendant trois semaines.
Oui. Hein, bonne santé.
Bonne année. Le paradis à la fin de vos jours.
Le paradis à la fin de vos jours.
Ce soir, nous allons faire un journal de 3 heures. Donc, ceux qui n'aiment pas ça, vous pouvez tourner le bouton. Dans 2 heures, vous aurez le journal télévisé pour les informations sous contrôle de l'État. D'ailleurs, sous contrôle de l'État, c'est même pas sûr, parce que je sais plus ce qu'il contrôle très bien maintenant. Il se contrôle même pas lui-même, l'État, donc je vois pas comment il peut contrôler la télé. Et puis, nous allons commencer, sans désemparer, comme disent les gendarmes, par... ils disent ça, les gendarmes,
ouais,
hein, par les bons voeux de quelqu'un que j'ai pas reçu depuis un certain temps, déjà, je crois. Bonsoir, c'est... Monsieur Bruno Gollnisch.
C'est vrai. Bonsoir, Monsieur de Bekech, et bonne année à vous et à tous les auditeurs de Courtoisie, et aussi à ceux qui font la radio, bien sûr.
Est-ce que vous pensez que cette année sera vraiment bonne? Comment la voyez-vous se profiler, cette année?
Je vais dire des banalités, mais enfin, on est quand même un peu inquiet. D'une part, des bruits de bottes dans le Golfe. D'autre part, des perspectives économiques qui ne sont pas bonnes. Et que ce que presque tous les gouvernements s'efforcent de masquer, mais je crois que il y a un découragement des acteurs économiques, en particulier de ceux qui créent les richesses, les entrepreneurs petits et grands, les professions libérales, les commerçants, les artisans, des salariés ou fonctionnaires motivés qui se demandent ça existe encore miraculeusement d'ailleurs, mais il y en a de plus en plus, mais ils ont beaucoup de mérite et il en est de plus en plus qui se demandent pourquoi ils continueraient à faire tourner une machine qui est de plus en plus lourde et de moins en moins productive.
On va parler de ça, on va parler de l'année qui vient de s'écouler, qui a été riche en événements intéressants.
Certes.
On va parler également de l'année qui se profile, qui sera sans doute aussi riche en événements intéressants. Je ne sais pas si ça sera intéressant, ça risque d'être en tout cas remuant. Ensuite, on recevra, également ce soir, je reçois Jean-Pierre Revault, pour des raisons de stricte politique politicienne, puisque Jean-Pierre Revaux est candidat aux élections législatives à Paris dans le 20e arrondissement.
Non,
c'est, non, non, c'est non, pas le 20e, c'est la 20e circonscription.
C'est la 17e circonscription qui fait comment
je suis tellement démocrate
qui,
que...
oui, qui ça, comprend je... une partie du 17e,
ah, 17e
hein, Batignolles-Épinette, et une petite partie du 18e. Et qui va jusqu'à la rue du Ruisseau, Porte Montmartre. Et,
mais on nous avait dit qu'on était tranquille pour, je sais pas, pour Moultosano, il n'y aurait pas d'élection et tout, c'est ça.
Il y a eu une annulation
partielle.
C'est une partielle, il y a eu une annulation d'élection.
C'est une vraie maladie, ça.
Voilà.
Il leur faut des élections tout le temps, tout le temps. Vous êtes fatigants, les démocrates, hein. Et je recevrai normalement aussi, je sais pas ce qu'ils tapent, hein, qu'est-ce qu'ils tapent comme ça, c'est les voisins qui font des travaux ou...
Non, c'est peut-être pas. Jean-Pierre Revaux qui donne du pied.
Qui donne du pied. Je ne suis pas si impatient que ça.
Il est prêt à entrer dans l'arène. Il gratte,
ah oui.
Il gratte du sabot. Et nous recevrons également Bernard Méry. Normalement, je l'attends. Bernard Méry qui est avocat, qui est déjà venu parler de ses ouvrages à ce micro. Il a écrit deux livres tout à fait intéressants sur les relations de la justice et de la franc-maçonnerie. Ou plus exactement sur la soumission de l'appareil judiciaire à la maçonnerie. Et il viendra nous donner les suites de ces deux livres qui sont fort intéressants, vous verrez. Et normalement, nous devrions recevoir également Vinnie Wurmeling, le docteur Dor, parce qu'il n'y a pratiquement pas d'émission du mercredi soir sans le docteur Dor. C'est une tradition, il faut qu'il vienne présenter ses vœux. Et puis, il va vous annoncer une initiative qui me paraît de nature à soulever quelques intérêts dans l'opinion publique. Ah oui, vous allez voir. Je crois qu'il n'est pas du genre à reculer non plus, celui-là.
Ah non.
Et puis, pour finir, nous recevrons les jeunes gens qui sont fous, comme tous les jeunes d'ailleurs, et qui ont donc décidé de faire un journal de bande dessinée qui existe. Ça y est, le premier numéro est sorti. Ça s'appelle Perfax. Et ces jeunes gens s'appellent Tanred et Sacha. Tanred, qui, comme son nom l'indique, est un breton. Enfin, on peut pas être plus breton que ça. Et Sacha, qui, comme son nom ne l'indique pas, est un franco-serbe. Et pour finir, il y aura également, normalement, Jacques Marchal, le légendaire Jacques Marchal. Et si, Jacques Marchal, qui était le créateur du graphisme d'Occident, vous savez, au Occident, et qui est l'inventeur des rats noirs. C'est lui qui a créé cette bande dessinée extraordinaire qui a bercé notre adolescence, n'est-ce pas, mon
cher? C'est vrai, c'est vrai, absolument.
Et qui nous a inspiré des actions parfaitement répréhensibles quand nous étions... Enfin, moi, pas à vous, bien sûr, parce que...
Non, moi, j'étais sage à l'époque.
En tant qu'élu de la République, vous êtes
mais
forcément...
Mais j'ai évolué depuis.
Bon, c'est bien...
Alors, en mal, bien sûr.
Oui, ça, la précision est totalement superflue, on l'avait compris. Vous savez qu'il y a une, il y a quelque temps est paru un livre, au terme duquel on pouvait penser que l'attentat du World Trade Center, et surtout l'attentat contre le Pentagone, n'était pas exactement ce qu'on nous racontait. Alors, ça avait soulevé chez beaucoup d'auditeurs de Radio Courtoisie le fait qu'on en parle. Des torrents de protestation, parce qu'on nous avait dit, mais comment pouvez-vous colporter des calembredaines pareilles? Premièrement, parce que c'est un livre qui a été écrit par un type d'extrême-gauche, donc c'est forcément faux. Je ne vois pas très bien, d'ailleurs, en quoi l'opinion politique du gars qui écrit un livre peut influer sur la nature des événements qu'il rapporte. Ça peut influer sur son commentaire, mais sur les faits, ils sont là, les faits. Bon. Et puis, parce que, vous comprenez, vous avez essayé de nous faire croire que la CIA et le FBI, c'est pas des gens sérieux et tout. Alors écoutez, vraiment, vous foutez du monde, pour qui vous prenez-vous et tout. Alors, moi, je me prends personnellement pour rien, mais je voudrais quand même vous lire un petit document, enfin un petit texte qui vient de paraître. Voilà, la police fédérale américaine, le FBI, comme on dit, ou FBI, comme disent les Américains, avait lancé le 29 décembre un appel à la population pour qu'elle l'aide à mettre la main sur des individus dont les noms et photos supposés avaient été publiés sur son site internet, en expliquant qu'ils auraient pénétré sur le territoire américain munis de faux passeports britanniques fournis par un réseau ayant des ramifications au Pakistan. C'était vachement sérieux, le FBI quand même, hein, c'est pas des rigolos. Alors, ça a fait naturellement beaucoup de bruit, ça a été diffusé partout, et sur Internet, et à la télévision, et dans les journaux. Et puis, il y a eu un monsieur qui s'appelle, je vais trouver son nom, qui s'appelle Je cherche le nom, je ne le trouve pas, mais ça ne va pas tarder. Voilà, si c'est un, alors il n'y a pas son nom, c'est un bijoutier pakistanais de Lahore, au Pakistan donc. Si, il s'appelle Mohamed Ashgar. Alors il a lu un journal qui était dans son coin, enfin, le journal local de sa ville, et il a eu la grande surprise de découvrir que il y avait en pleine page sa propre photo, le décrivant comme un des 5 suspects recherchés par le FBI pour cette entreprise. Produit aux États-Unis avec des armes. Alors il a fait savoir qu'il était bijoutier pakistanais et pas terroriste musulman, qu'il n'avait jamais foutu les pieds aux États-Unis. Et alors ils ont commencé à faire une petite enquête au FBI, ils auraient peut-être mieux fait de le faire avant, et finalement il apparaît que ces informations ont été fabriquées par un individu faisant lui-même l'objet d'une enquête, a déclaré un porte-parole du FBI, M. Bill Carter. Il faut dire que lui, il n'est pas aidé, il a à la fois le prénom et le nom des 2 présidents de la République les plus calamités de l'histoire des États-Unis. En conséquence de la découverte de ces informations fabriquées, on n'a plus besoin de l'assistance du public, a-t-il dit, pour rechercher et localiser ces personnes. Autrement dit, ils ont mobilisé depuis le 29 décembre le banc à l'arrière-banc des Américains pour traquer des malheureux qui n'existent pas, qui ont été inventés de toutes pièces par un informateur du FBI qui s'appellerait Michael John Hamdani, Canadien d'origine pakistanaise. Alors le gars, c'est un type simple en plus, un Canadien d'origine pakistanaise qui est informateur du FBI et qui est un personnage d'une 50aine d'années, qui a été accusé de possession de faux passeports et de faux chèques de voyage et arrêté en octobre dernier au Canada. Et oui, alors quand il a été arrêté, il s'est dit que puisqu'il était en prison, autant qu'il raconte des choses aux gens qui l'avaient mis en prison, alors il a inventé cette histoire. Voilà comment fonctionne la police la mieux faite du monde, le FBI.
Oui, ceci étant quand même sur l'affaire de la contestation de la relation des attentats du 11 septembre, moi je suis assez partagé parce que d'un côté M. Ratier, que je considère comme quelqu'un d'extrêmement sérieux, nous a retransmis un certain nombre d'éléments qui tendraient à penser que l'avion ne s'est pas écrasé sur le Pentagone, mais d'un autre côté, effectivement, ces informations ont transité par Monsieur Messiaen. Or, je ne considère pas que Monsieur Messiaen soit nécessairement dans l'erreur ou dans le mensonge. Absolument. Excusez-moi. Et je ne considère pas que le fait qu'il soit d'extrême gauche signifie qu'il mente tout le temps.
Non, il y a même Chirac qui arrive à dire la vérité de temps en temps.
Alors. Mais en revanche, que Messiaen soit un affabulateur, ça je l'affirme, parce que je sais ce qu'il a raconté, par exemple, sur notre service de sécurité, sur mon cas personnel, par exemple, et il prétendait que le Front National était une émanation de la DPSD. Et il en avait pour preuve que c'est la direction de la protection de la sécurité de la défense, n'est-ce pas? Et il en avait la preuve que j'aurais été officier dans de ce service. J'ai jamais été officier de la DPSD, j'étais officier du 2e bureau de la marine, et qu'un responsable de notre service d'ordre y aurait été aussi officier. Alors moi j'ai été au 2e bureau de la marine comme quand j'étais enseigne de vaisseau, et à 10 ans de distance, un garçon qui a effectivement eu des responsabilités dans notre service d'ordre, qui était dans l'active à ce moment-là, a dû être capitaine affecté à ce service, ce qui ne fait quand même pas du Front National l'émanation des services secrets français. Et Messiaen a témoigné quand même de tout ça devant la commission d'enquête parlementaire. Il a demandé à la commission d'enquête parlementaire sur notre service d'ordre, il lui a enjoint l'ordre d'arrêter ses travaux immédiatement et de se transporter, je crois, à boulevard Saint-Germain, dans les bureaux d'un général dont il prétendait qu'il était celui qui tirait les ficelles de toute l'opération Front National, laquelle n'avait d'autre but que de continuer en Afrique au profit de Mitterrand de Gaulle y avait fait par l'intermédiaire de gens comme Focard. Alors, je dois dire que... J'ai lu beaucoup de choses assez ahurissantes sur le Front National que je prétends bien connaître, mais rarement avec autant d'affabulation que Messant. C'est pour ça que quand Messant prétend qu'il n'y a pas d'avion qui se soit écrasé sur le Pentagone, moi je veux bien à la limite, mais alors qu'est-ce qui s'est passé sur le Pentagone? Il faudrait croire que c'est le gouvernement américain qui, de sa propre autorité, y aurait placé une bombe.
Non, je crois pas. Pour faire détruire. Il faut lire le travail. Parce que le bouquin de Messant, pour tout dire, moi je l'ai pas lu. Ce que j'ai lu, c'est tout ce que Ratti a fait dans Fait et Document.
Oui, c'est troublant. Je reconnais que c'est
extrêmement troublant.
Il y a des éléments troublants.
Et Messant s'est emparé des travaux de Ratti pour en faire un bouquin. On peut lui reconnaître une certaine astuce. Et puis, l'entregent suffisant pour trouver un éditeur. Parce que ce bouquin, c'est Ratti qui aurait pu le faire et qui aurait dû le faire. Il a peut-être pas eu l'éditeur dont il avait besoin pour publier ça. Mais le fait est qu'il y a des choses extrêmement troublantes. Et une des hypothèses on va pas s'attarder là-dessus, mais une des hypothèses que je retiens, c'est qu'il y a eu véritablement une tentative de coup de force à l'intérieur des forces armées américaines entre deux clans, le clan pro-israélien et le clan anti-israélien, qui ont mis à profit, ils étaient prêts à faire une opération, et ils ont mis à profit ce qui s'est passé au World Trade Center pour lancer un truc, et c'est... Quand on voit les photographies, c'est évident qu'il n'y a pas eu d'avion, ça c'est absolument évident. Il y a eu très probablement un missile. Mais les photographies sont alors là définitivement catégoriques. On peut regarder, j'en ai vu des centaines. Ratti a donné des dizaines de sites qui ont publié vraiment des centaines de photos. Il n'y a pas d'avion.
Mais non, je n'ai pas les éléments d'information de Ratti, que je considère comme quelqu'un de très sérieux et dont j'ai lu le compte rendu de cette affaire. Mais je demande quand même le bénéfice d'inventaire sur cette contestation parce que j'avoue que je perçois mal l'intérêt qu'il aurait eu à dire qu'il y avait un avion alors qu'il n'y avait pas d'avion.
C'était plus difficile d'expliquer que c'était un missile quand même, parce qu'un avion, on peut imaginer deux types à bord d'un avion qui le détourne, tandis qu'un missile, ça supposerait que des terroristes soient introduits dans le stratégique air commande ou je ne sais quelle unité américaine pour lancer des missiles, c'est un peu plus compliqué. Mais en tout cas, ça justifie l'hystérie guerrière actuelle de Bush, cette histoire. Je ne dis pas que c'est pour ça qu'elle s'est produite, mais je dis que le fait est là, ça justifie. Ça explique en tout cas où ça fonde l'attitude de Bush. Et je voudrais vous demander ce que vous pensez, vous, et quelle est la position du mouvement du Front National en ce qui concerne ces bruits de bottes et cette menace, plus que menace, cette quasi-certitude de guerre. Je signale que Chirac vient de faire une déclaration, ça a été dit, il a demandé à toutes les armées d'être prêtes à toute éventualité, en expliquant que la force ne devait être utilisée qu'en dernière extrémité, et il dit la guerre est possible. Merci Monsieur le Président, on s'en doutait un petit peu, mais moi je croyais que le Président de la République française était fondé à dire, par exemple, au Président des États-Unis, écoutez Monsieur, mon cher confrère, vous avez décidé de faire la guerre, faites-la donc, mais nous on n'est pas d'accord, on n'ira pas. Apparemment il admet l'idée qu'il va être emporté dans cette guerre contre son gré.
Je crois que c'est cela qui est très grave dans la déclaration de Jacques Chirac à l'occasion des vœux de nos principaux responsables militaires à l'Élysée. C'est qu'il se situe dans la perspective d'une guerre et il se situe dans une perspective où la France serait le valet d'armes des États-Unis. Moi, je dois dire que quand Jacques Chirac a ce dont nous l'avons loué, en dépit du contentieux politique et pourrait-on dire aussi personnel qui n'est que trop justifié et qui nous oppose à lui, je crois Jean-Marie Le Pen, avec un souci légitime de l'intérêt national, s'est félicité de ce que Jacques Chirac prenne des positions quand même distanciées par rapport à celles des États-Unis à l'ONU. Mais moi j'ai pris le pari à ce moment-là avec un de nos cadres dirigeants, responsable des relations internationales, que finalement Jacques Chirac s'alignerait sur la position américaine et même qu'il enverrait un petit morceau de l'armée française, parce qu'on ne peut pas envoyer autre chose qu'un petit morceau, parce que ce qui reste de l'armée française étant dispersé d'ailleurs dans toutes sortes d'opérations de l'Afghanistan jusqu'à la Côte d'Ivoire, en quelque sorte pour servir de valet d'armes dans la guerre d'agression américaine qui se prépare, où je crois véritablement qu'il n'y a aucune justification. Autant le premier conflit auquel nous étions opposés aussi, nous étions opposés à l'entrée de la France dans la guerre du Golfe, mais on pouvait considérer qu'il y avait eu l'occupation du Koweït, sur laquelle d'ailleurs il y aurait beaucoup à dire.
Oui,
c'est pas le sujet. C'est pas le sujet aujourd'hui. Il y avait malgré tout une justification concevable. Il n'y a aujourd'hui aucune justification à ce que serait une entrée de la France dans ce conflit aux côtés des États-Unis. Je crois même que c'est grave, que c'est criminel, parce que le rôle de la France serait évidemment, au contraire, de dire, comme vous le suggérez, qu'elle est radicalement opposée à cette agression. Il n'y a aucune justification parce que l'Irak ne menace personne, parce qu'il n'y a pas de preuve de possession d'armes de destruction massive, comme l'on dit en Irak. En revanche, il y en a très bien, il y en a beaucoup chez un certain nombre de pays qui sont alliés des États-Unis, à commencer par le Pakistan, par exemple, ou Israël, bon, ou d'autres. Les inspecteurs de l'ONU qui ont visité l'Irak pendant 10 ans, en pure perte, et s'ils ont fini par si ce pays a fini par les chasser, c'est parce qu'il était là de les voir circuler partout sans qu'aucune amélioration ne se fasse sentir dans les sanctions. Depuis qu'ils sont revenus, les inspecteurs de l'ONU ont visité 120 sites. Ils n'ont rien trouvé. Ils n'ont rigoureusement rien trouvé. L'Irak est aujourd'hui un pays exsangue sur le plan économique. C'est un pays de 16 millions d'habitants. C'est un pays qui est dont la puissance militaire et économique est très inférieure aujourd'hui à celle de la Belgique, et qui évidemment ne menace en aucune façon les 300 et quelques milliers d'anglo-saxons, puisqu'il faut ajouter aux États-Unis les Britanniques, qui n'ont demandé l'avis de personne dans leurs partenaires européens pour emboîter immédiatement le pas aux États-Unis. Je pense que si nous participons à cette guerre, nous allons contribuer à accumuler contre le monde occidental, chrétien, européen, et plus particulièrement contre la France, des haines qui ne seront hélas que trop compréhensibles. Et nous n'y avons aucun intérêt. Chacun sait très bien que le but de cette guerre, c'est d'assurer la domination par les anglo-saxons des ressources du pétrole mondial, qu'ils contrôlent d'ailleurs dans leur quasi-totalité. Et nous n'avons aucun intérêt à conforter ce monopole. Alors que si la France faisait usage de ce fameux droit de veto dont elle dispose comme membre permanent du Conseil de sécurité, eh bien, elle acquérerait immédiatement, et pas seulement au Moyen-Orient, une position politique et morale tout à fait unique. Tandis que là, je ne vois aucune justification à une politique aussi stupide. Je pense que Jacques Chirac n'est pas un homme libre. Et je crois que c'est mon ami Jean-Pierre Revaux me disait ce matin, très justement, que c'est le coup de pied de l'âne. Vous connaissez la fable de La Fontaine, dans laquelle le lion à l'agonie voit tous les animaux de la création qui viennent aggraver son agonie, jusqu'à l'âne lui-même qui, toute honte bue, s'avance et donne un coup de pied au lion à l'agonie. Et je crois pas que l'Irak aujourd'hui soit un lion, c'est certainement un pays à l'agonie en revanche, et je ne vois pas du tout ce que nous irions faire dans cette galère.
Nous avons publié là dans le numéro du Libre Journal qui vient de paraître une chronique de Pat Buchanan, qui est le
patriote américain,
qui est en plus éditorialiste du journal The American Conservative, et dont on a diffusé il n'y a pas très longtemps une interview sur Radio Courtoisie, et qu'on avait publié dans le Libre Journal. Et il dit exactement ça. Il dit que se passera-t-il une fois qu'on aura gagné? Parce qu'il dit, évidemment, on va gagner, on va aller là-bas, on va leur foutre une trempe en 3 jours, et qu'est-ce qui va se passer après? Et alors il dit, le président et le parti de la guerre seront confortés, ragaillardis par la victoire et ses conséquences potentielles. L'Irak, clé du Moyen-Orient, étant occupé, la Syrie sera encerclée par Israël, les États-Unis et la Turquie. Assad devra se retirer du Liban, ce qui permettra à Sharon de s'y réinstaller et d'entreprendre la liquidation du Hezbollah. Quant à l'Iran, il sera assiégé par la puissance américaine, présente en Turquie, en Irak, dans le Golfe, en Afghanistan, en Asie centrale et dans toute la péninsule arabique. Et telle est en tout cas la vision qui intoxique les néoconservateurs et les conduit à voir la 4e guerre mondiale comme une promenade de santé à la découverte à la découverte conquérante de l'Irak, suivie de brèves visites armées en Syrie ou en Iran. Et d'ores et déjà, dit-il, l'Israël nous tire par la manche pour nous inviter à ne pas oublier la Libye. Mais, ajoute-t-il, ça c'est la vision positive, enthousiaste des choses. Et tout. Et dans la réalité, il faut se rappeler que quand l'armée israélienne était au Liban, elle y restait pendant 18 ans, et pendant 18 ans elle a eu à affronter le terrorisme ou la résistance palestinienne, et au bout de 18 ans, elle a foutu le camp. Même l'armée israélienne a été obligée d'abandonner le terrain, ensanglantée. Et il dit, les régimes pro-américains seraient regardés comme incapables d'empêcher l'instauration d'un impérium américain sur le monde musulman, et comme les monarques furent chassés du Caire, de Damas, de Bagdad, de Tripoli et d'Addis Abeba pour avoir collaboré avec les puissances coloniales, les dirigeants pro-américains ne seraient plus que des cibles pour les terroristes. Et il dit, autrement dit, on va rentrer pour 10 ans, pour 15 ans, dans un véritable enfer dont on ne pourra jamais sortir. Alors que les Américains fassent ça, c'est leur affaire, c'est leur stratégie. C'est normal que M. Bush, qui est un pétrolier, fils de pétrolier, veuille se servir de la puissance dont il bénéficie en tant que président des États-Unis pour protéger les intérêts de sa caste. Mais que Chirac, qui se manifeste contre, dans un pays qui est majoritairement opposé à une intervention, reconnaissent publiquement que, de toute façon, le droit de veto dont il dispose, c'est peanuts, ça lui servira à rien, c'est absolument renversant, quand même. Mais ça devrait attirer l'attention des Français.
Absolument. J'ai entendu une toute petite nuance, si vous le permettez, par rapport à l'analyse de M. Buchanan, qui c'est peut-être lui qui a raison. Moi, j'étais au Liban juste avant Noël, avec Jean-Marie Le Pen. Nous y avons d'ailleurs été très bien reçus. C'est la première fois que je vois une conférence de presse qui était organisée par l'ordre des journalistes de Beyrouth, car il y a là-bas un ordre des journalistes comme il y a un ordre des avocats ou un ordre des médecins. Une conférence de presse.
Dieu nous en préserve.
nous ont applaudi et surtout l'accueil de la rue, l'accueil des jeunes Libanais a été tout à fait extraordinaire. Je crois en réalité que les États-Unis ont un accord tacite avec la Syrie qui consiste à laisser les mains libres à la Syrie au Liban pour que la Syrie, qui a toujours considéré le Liban comme faisant partie de son territoire, pratiquement y exerce une tutelle de fait. Et je ne crois pas que les États-Unis entreront en Syrie.
Mais toute proportion gardée, c'est un petit peu. Moi, je vois la relation entre la Syrie et le Liban, je dis bien toute proportion gardée, comme la relation entre la Chine et Hong Kong il y a 10 ans.
Peut-être.
C'est une espèce de sas qui permet à la Syrie d'avoir un contact direct et plus facile avec le commerce international. La dictature syrienne a quand même du mal à s'imposer comme interlocuteur officiellement reconnu par toutes les nations démocratiques. Donc, le Liban, avec M. Trafik Hariri, ça doit marcher très bien. Il doit y avoir beaucoup de problèmes.
Grand ami Jacques Chirac. Mais ce que je pense, là, c'est que, en tout état de cause, la politique des États-Unis est effectivement extraordinairement dangereuse. Ça risque d'être. Ça ne sera pas la première fois que la politique américaine en donne l'exemple. On l'a vu en Indochine, lorsqu'elle a puissamment contribué à enchasser les Français, en réalité. Oui. C'est la politique de Gribouille, parce que le régime de Saddam Hussein est sans doute un régime autoritaire, une dictature, je veux bien, comme le sont d'ailleurs tous les régimes de la région. Mais il est évident que le monde occidental n'aurait aucun intérêt, bien compris, à détruire un des rares régimes arabes laïques, où les chrétiens sont étaient jusqu'à présent en tout cas parfaitement tolérés et où ne régnait pas le fondamentalisme musulman. Et quand on aura détruit l'Irak, qu'est-ce qui empêchera l'Iran de revendiquer la tutelle des chiites qui forment la moitié de la population de ce pays, et qu'est-ce qui empêchera les Kurdes de s'ériger en état indépendant, ce que redoute apparemment la Turquie qui se prépare sans doute également à y entrer pour empêcher la proclamation d'un Kurdistan indépendant.
Quelle serait l'attitude du Front National dans l'hypothèse d'une entrée en guerre de la France?
Nous ferons ce que peut faire une formation d'opposition légale et légaliste, c'est-à-dire à peu près rien. Je voudrais tout d'abord quand même vous souligner qu'il ne suffit pas qu'il y ait une résolution des Nations Unies pour que nous entrions en guerre. Légalement parlant, constitutionnellement parlant, il y a un article de la Constitution qui dit que le Parlement doit autoriser l'entrée en guerre.
Mais bon,
de
la France. Il y a un Parlement croupion, là.
C'est un Parlement croupion. Il y a Crevaux. On l'a déjà vu dans la guerre du Golfe. Ben oui, je crois que c'est la raison pour laquelle il faudrait que des gens comme Jean-Pierre Revaux, précisément, y entrent, parce que un député Front National sur plus de 500, ça ne changerait pas la majorité, mais ça pourrait faire entendre une voix qui ne se fait pas entendre et qui est celle précisément de millions de Français. Je crois que nous manifesterons par tous les moyens qui sont à notre disposition, bien sûr, notre rejet de cette d'une guerre d'agression que rien ne justifie. Vous parliez des difficultés que risquaient de rencontrer les États-Unis. Je voudrais juste livrer une réflexion qui m'a été faite hier par un de mes amis qui est journaliste et directeur de la rubrique internationale dans un grand hebdomadaire. Je m'abstiendrai de citer son nom pour ne pas nous
rendre service. Nous lui rendrons service de ne pas le citer.
Il me dit que récemment, dans un cocktail, il a rencontré un ambassadeur allemand qui lui a dit, avec un brin d'ironie, les Américains disent qu'ils vont gérer le pays et le placer sous tutelle, comme ils ont fait pour le nôtre après 1945, n'est-ce pas ? Tout ça, c'est très bien, à condition de rester 50 ans.
Ouais. C'est exactement ce que dit Buchanan. Ils seront là pour 50 ans. Et c'est évidemment pas viable. Je publie dans le journal un papier sur l'affaire du prestige. Et parce que j'ai été informé, alors je sais pas si Jean-Pierre Revaux a eu des échos de ça, mais d'après certains experts en guerre secrète, il n'est pas du tout exclu que le naufrage du prestige soit tout à fait autre chose qu'un accident. Est-ce que vous avez entendu parler de cette histoire ?
Non, personnellement, j'ai pas du tout entendu parler, mais je crois qu'il faut pas non plus quand même en permanence fantasmer sur.
Ah, c'est pas un fantasme, c'est lié à la propriété du prestige, de ce paquebot.
On prête
qu'aux riches.
Oui, on prête qu'aux riches, mais enfin, je crois que personnellement, j'ai aucun élément qui me permet d'aller dans ce sens, quoi. Mais enfin, moi, je suis très prudent. Hein, tant qu'on n'a pas des preuves formelles de ce genre d'attentat ou de
malveillance,
voilà, exactement.
La mafia disait dans le temps, enfin dans les films, on voit la mafia qui vient, qui dit on va te donner un avertissement.
Voilà.
Ce qui est certain, c'est que on ne fait rien contre les pavillons de complaisance, que nos autorités, là, procèdent par coup de menton en disant ce qui arrive est scandaleux, on va voir ce qu'on va voir. Nous sommes les derniers de la classe pour la mise en conformité de nos navires.
Mais une fois de plus.
Ce que je trouve extraordinaire, j'ai été officier de marine, mais ce que je trouve extraordinaire, c'est que la réaction ait été finalement d'essayer de remorquer ce navire au large.
C'est une folie.
Or, on sait très bien que c'est pas ça qui va empêcher les hydrocarbures de.
Oui, mais ça, c'est.
La réaction courageuse, il est vrai.
Ça aurait été de le mettre à la côte.
Aurait été de le mettre dans un port, oui, dont la baie eût sans doute été polluée, mais au moins la pollution eût été
seulement
circonscrite.
Le problème. Et là, on est en face d'une situation qui est caricaturale. Oui. C'est-à-dire que qu'est-ce qui a commandé la décision de traîner en Espagne, de traîner la décision espagnole, de tenter de traîner le navire au large, alors que tous les experts avaient dit il va se briser, vous n'y arriverez pas, il est trop lourd, il est mal disposé par rapport à la houle, vous ne pourrez pas, il va se casser et il va couler, ça va être une catastrophe gigantesque. C'est tout simplement qu'il fallait que le gouvernement espagnol, l'autorité en charge de ça, décide de l'endroit qui serait sacrifié. Et pour des raisons électoralistes locales, personne n'a voulu prendre cette responsabilité. Il est vrai que si ça s'était passé en France, on n'imagine pas une seule seconde Chirac disant on va sacrifier la rade de Brest ou je ne sais quoi. C'est absolument impossible pour eux. Donc ils préfèrent faire semblant d'éloigner le danger, quitte après à sacrifier non seulement la rade de Brest, mais non seulement la Rochelle, mais aussi toute la côte du sud de la Bretagne.
Absolument. Je voulais dire quand même un mot, où je trouve, alors là, le le ridicule le plus achevé, c'est de la manière dont on prétend gérer le gouvernement actuel, et Chirac qui se met toujours en tête, bien sûr, et en disant qu'il ne tomberait pas dans la rien faire ou laisser faire espagnol. Et on entend des choses les plus ahurissantes, qu'on a envoyé 30 hommes par ici, un grand renfort de 70 hommes par là, pendant que j'entendais l'un des maires du Cap-Ferré, il a dit « il m'en faut 5000 ». Et là, la gesticulation habituelle est invraisemblable, puisqu'ils veulent envoyer l'armée, mais il n'y a plus d'armée. Chirac a été le fossoyeur, faut le dire, de l'armée française, puisqu'il n'y a plus pratiquement d'armée française, les casernes sont vides, il n'y a plus personne dans les camps.
Un auditeur nous dit ça. Comment va-t-on dépolluer la côte atlantique maintenant que la conscription est supprimée? Ils envoient 200 hommes pour nettoyer des dizaines ou des centaines de kilomètres de côte. Encore un succès des partisans.
Voilà, mais on se ridiculise complètement. Ils sont incapables de gérer cette affaire, mais comme d'habitude, et pour le restant d'ailleurs de la politique française, ils font semblant, comme M. Sarkozy fait semblant, de rétablir l'ordre en France. Un grand coup de visite de gendarmerie, de commissariat et de grandes déclaration, tout ça est derrière, on le sait très, très bien, on n'a qu'à voir les 400 voitures qui ont encore brûlé pour la nuit du réveillon, et là on se félicite, il y en aurait eu 3, 4, 5 de moins que l'année dernière, grande satisfaction, et bien entendu tous les gens qui ont été arrêtés au cours de cette nuit-là ont été relâchés par un grand nombre de juges qui appartiennent à l'obédience, à certaines obédiences dont vous nous parliez, ou qui sont carrément gauchistes, puisque 35% se déclarent appartenant au syndicat de la magistrature.
Alors, comme je sais que Bruno Gollnisch est un rationaliste fervent, je vais faire un peu de provocation. Et est-ce que ça vous inspire un commentaire, le fait que la France soit polluée par la marée noire, envahie par la marée noire et englué dans la marée noire en Côte d'Ivoire? Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de noir là-dedans. C'est beaucoup de... ça ressemble tout à fait à une opération alchimique d'œuvre noire où on nous englue en Côte d'Ivoire, nous envahit.
J'ai pas le fétichisme des couleurs, mais il est certain que...
Ça, c'est sûr.
Il est certain que ça se passe très mal en Côte d'Ivoire.
Est-ce qu'il fallait y aller ou est-ce qu'il...
S'il fallait y aller, il fallait y aller au moins dès le début. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'enlisement. Comme on n'a pas voulu s'engager le premier jour, il faudra quadrupler les effectifs. Chaque faction accroît les siens et on ne peut pas tenir une ligne qui coupe le pays en deux avec aussi peu de monde, c'est évident. D'autant plus que les rebelles du MPIGO, ce sont ceux qui sont à l'ouest, n'ont pas signé le cessez-le-feu. Ils ont attaqué par trois fois les troupes françaises à Douekwe et ils se sont emparés, ce dont on a fort peu parlé, de Neka, une ville qui se trouve sur les arrières des troupes françaises et à 200 km de San Pedro, une ville qu'ils ont pillée de fond en comble.
Il y a quand même...
ce sont les Libériens de M. Charles Taylor, qui, comme Campaoré d'ailleurs, est soutenu par Kadhafi.
Il y a un commentaire qui... qui m'est inspiré par cette affaire. Au fond, je me demande si c'était pas une bonne idée d'y aller. Je vais vous dire pourquoi. Parce que en France, il y a une espèce d'assédie, une espèce d'effondrement de la volonté nationale qui consiste à dire il faut rien faire. Par exemple, Jean-Pierre Revaux parlait tout à l'heure des 400 voitures du réveillon. On peut parler de la criminalité galopante et on nous dit il faut rien faire, vous comprenez, parce que ça serait terrible, on risquerait de déclencher une guerre raciale, une guerre civile en France, et il faut surtout pas donc il faut rien faire qui soit susceptible de provoquer les banlieues. Moi je veux bien, mais là-bas on a des gars qui y sont allés, ils se sont affrontés à Douekwe comme vous l'avez dit. Avec des gens qui, d'une certaine manière, sont comparables. On pourrait imaginer cette espèce de taliban de jeunes des banlieues, des banlieues africaines au lieu d'être des banlieues parisiennes. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a d'un côté une petite unité française qui est assez limitée en nombre, qui est simplement des gars qui ont l'autorisation de se battre et les moyens de le faire, et ils foutent au tapis 30 types en quelques minutes, et eux, ils ont 9 blessés légers.
Ça montre un grave, quand même.
Et un grave qui était blessé au pied. Bon, ça montre quand même que l'équilibre des forces est plutôt en notre faveur.
Je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas intervenir, qu'il ne fallait pas honorer les traités que nous avons avec un certain nombre de pays auxquels nous sommes unis encore par des liens très anciens, d'amitié, par des intérêts d'ailleurs légitimes. Je ne me résigne pas du tout à ce que la France disparaisse de la scène mondiale. Ce que je craint avec la politique de saupoudrage qui est celle de l'engagement de nos forces par petits détachements, et c'est un l'enlisement. C'est tout à fait différent. Je dis que si on avait décidé d'intervenir, il fallait avoir à ce moment-là une politique de parfaitement lisible. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ça n'est pas le cas à l'heure actuelle, parce que ne pas choisir son camp, sans remettre à l'idée qu'on va réunir tout le monde autour d'une table et que chacun va s'embrasser, et désarmer d'une certaine façon le camp que l'on prétend soutenir par ailleurs, c'est finalement se faire des ennemis partout.
Mais c'est toujours la même politique. Politique en France, la politique relative. Relativement, par exemple, aux banlieues, c'est exactement ça. On dit aux flics, il n'est absolument pas question de recourir à la force, vous devez maintenir l'ordre, comme si on était en présence de deux gangs, hein, le gang des voyous et le gang des honnêtes gens, et la police étant entre les deux gangs en disant aux honnêtes gens, attendez, vous n'avez pas le droit de vous défendre, et aux voyous, vous n'avez pas le droit d'attaquer. Donc on est dans une constante, là.
Absolument, parce que nous sommes là, théoriquement, moi je ne suis pas un spécialiste de cette question, et en particulier pas de la Côte d'Ivoire. Mais nous sommes là, en principe, pour défendre le gouvernement légitime, celui qui est reconnu comme tel, d'ailleurs, par l'Organisation des Nations Unies, qui a été, de façon surprenante, enfin, qui ne me surprend pas, mais beaucoup plus claire que la France, dans le soutien au gouvernement légal. Bon, nous sommes là, donc, pour soutenir le régime de M. Gbagbo. Et il a demandé à M. de Villepin l'application des accords de défense, ce que M. de Villepin a refusé. M. de Villepin a exigé de Gbagbo l'immobilisation des hélicoptères, qui sont la seule réserve mobile disponible des forces armées ivoiriennes. Il lui a demandé le renvoi des mercenaires et l'engagement de n'entreprendre aucune offensive, ce qui revient en réalité à laisser l'initiative aux Libyens, comme on l'a vu. Alors, je suis très heureux que nos forces là-bas, remarquablement entraînées, je crois, et organisées, s'en soient sorties sans trop de casse, mais jusqu'à quand? Et ce n'est pas cela. Ce n'est pas cette escarmouche heureusement terminée à l'avantage des Français qui permet de déboucher sur une solution politique.
Non, je faisais allusion à ça dans une perspective hexagonale, si je veux dire, interne. Quand ils auront fini de régler les problèmes de la délinquance et de la criminalité africaine en Côte d'Ivoire, ils pourraient peut-être faire la même chose.
S'y intéresser à Vaux-en-Velin, à Vénissieux.
Avec les mêmes moyens, je suppose. Oui, Pourquoi pas, après tout.
On peut toujours rêver, moi.
Ma vie n'est qu'un long rêve. Vous voulez prendre la parole, Victoria, peut-être? Vous permettez, Bruno Gonnet?
C'est pas moi, c'est les auditeurs. Des commentaires, des questions. Jacques Chirac mange à tous les râteliers, rien de nouveau. Même la journaliste de LCI a trouvé que le comportement de Jacques Chirac était différent entre le matin et l'après-midi de ses deux interventions. Comment va faire Chirac pour envoyer l'armée qu'il a détruite sur les plages, dans les gares, dans les grands magasins, au Pakistan, en Afrique, etc. Qu'en reste-t-il ?
En Afghanistan, on oublie qu'il y a toujours un détachement français en Afghanistan.
Oui, c'est comique.
C'est important. Hein.
Je ne sais pas ce qu'ils font là-bas. À quoi ça sert, franchement ?
L'Allemagne, elle, a refusé de participer à une intervention contre l'Irak.
Pour l'instant.
Oui, exactement.
Si les Américains envahissent l'Irak et s'emparent du pays, je pense qu'il proposerait peut-être une partie de ce pays aux Palestiniens. Qu'en pensez-vous ?
Mais enfin, c'est extraordinaire.
Oui, moi, c'est une question intéressante. Je crois très possible, en effet, qu'à l'occasion de la guerre, le gouvernement israélien en profite pour essayer de rejeter les Palestiniens au-delà du Jourdain. Oui, ça, c'est pas impossible.
Mais enfin, c'est quand même formidable. On veut placer les Israélites ailleurs qu'en Europe. Donc, on leur dit, vous allez aller à Madagascar. Non, ça nous plaît pas trop. Bon, bah alors, on va vous mettre en Palestine. Bah oui. Alors, on est Palestinien, voilà. Vous devez ouvrir votre pays. Alors. Et puis, maintenant, avec les Palestiniens, ça se passe mal. Donc, on dit aux Palestiniens, vous allez foutre le camp. Et on se retrouve avec le problème du départ, bien entendu. Et on leur dit, qu'est-ce qu'on va faire des Palestiniens? Bon, on va les mettre en Irak. Et les Irakiens, on les mettra où après? Parce qu'il y aura bien des Irakiens à l'endroit où on mettra les Palestiniens, ils ne sont pas forcés de s'aimer.
Tout ceci repose évidemment sur le droit, sur la force.
Mais oui.
Et sur la violence et en violation de toutes les notions de droit et de morale communément admises.
Mais c'est fait au nom de la morale, au nom d'une espèce d'éthique supérieure des droits de l'homme. On vous déplace des populations comme ça, puis un jour ils vont arriver en Auvergne, pourquoi pas.
Ben les Kurdes y étaient bien arrivés,
oui, grâce à Madame
ont été installés par Madame Mitterrand. Oui, ce n'est qu'un détachement précurseur. Oui.
Le politiquement correct.
J'ai entendu que des Jordaniens se mobilisaient pour intervenir aux côtés de l'Irak en cas d'attaque américaine. Qu'en pensez-vous?
Il y aura certainement une solidarité dans beaucoup de pays du monde arabe, mais je crois que c'est pas le problème essentiel. Je pense que si les Américains attaquent, ils disposeront d'une supériorité, ils utiliseront la méthode bien connue du carpet bombing. Ouais. Évidemment, personne ne leur disputera la supériorité aérienne. Quoi. Ouais,
Quand le pays sera
ramené à l'âge de pierre, il sera toujours temps pour eux de...
On pourra appliquer la fameuse promesse de Churchill. Je ne sais pas avec quoi se fera la Troisième Guerre mondiale, mais je sais que la Quatrième se fera avec des pierres et des bâtons.
C'est ça, oui.
L'alignement de Chirac sur Bush n'est qu'une question de gros sous, c'est-à-dire du pétrole. Peut-être le président a-t-il raison de vouloir être à la table des négociations à la fin du conflit. Qu'en pensez-vous?
Je suis en total désaccord avec ce que semble suggérer cet auditeur. Je suis persuadé que nous n'aurons que des miettes et qu'une politique méprisable ne rencontre que le mépris, y compris de la part de nos alliés. Et d'ailleurs, l'expérience a été faite. Écoutez, la France a fourni, il ne faut pas l'oublier, le plus gros contingent, pratiquement le seul, 4000 hommes, notamment dans l'ex-Yougoslavie. Et notamment là où il n'y avait pas, pendant très longtemps, il n'y a pas eu un seul soldat américain, n'est-ce pas? Quand M. Balladur a consulté les formations politiques, il était alors Premier ministre, sur l'opportunité de continuer cette politique, je suis allé avec Jean-Marie Le Pen à l'hôtel Matignon, où il nous a reçus avec le ministre des armées de l'époque, qui était M. Léotard, et le ministre des Affaires étrangères, qui était M. Juppé. Bon. Et nous leur avons dit que nous ne comprenions pas pourquoi nous n'étions pas relevés dans cette intervention qui se faisait sous les couleurs de l'ONU. M. Balladur nous a dit que c'était nécessaire pour que la France continue à être respectée, à tenir son rang, notamment à occuper son siège de membre permanent du Conseil de sécurité à l'ONU. Mais ce siège de membre permanent n'a qu'un seul intérêt, c'est le droit de veto qui y est attaché. Or, nous ne faisons jamais usage de ce droit. Alors que les États-Unis se sont progénés encore tout récemment dans une résolution qui condamnait Israël pour, seul contre tous, en quelque sorte, en faire usage. Et par conséquent, bloquer l'adoption de la résolution. Alors je me demande ce que vaut le fait d'essayer d'acquérir ou de maintenir des droits dont on ne fait jamais usage. Pour en terminer sur ce sujet, sur l'ex-Yougoslavie, nous avons eu des centaines de blessés, nous avons eu des dizaines de tués. Quand le président américain a sifflé la fin de la récréation, si j'ose dire, s'agissant d'un conflit qui a été particulièrement sanglant, et a convoqué à Dayton les trois présidents serbes, croates et bosniaques, la France n'a même pas été admise dans la salle des cartes. Alors, il ne faut pas croire un seul instant que la France jouira des miettes de quelques concessions de pétrole ou autre si elle participe à cette guerre. Je suis persuadé du contraire.
Si je peux me permettre.
Et le monde anglo-saxon, les anglo-saxons considèrent, il faut le savoir depuis toujours, ça date pas d'hier, ça date du début du siècle dernier. Ils considèrent toujours le pétrole comme leur chasse gardée exclusive. N'oublions pas que tout cela vient de la fin de l'Empire ottoman, vaincu avec l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie à l'issue de la Première Guerre mondiale, et quand il s'est agi de se partager les dépouilles de l'Empire ottoman sous mandat de la Société des Nations, qui était l'ancêtre de l'actuelle Organisation des Nations Unies, eh bien on a donné le mandat sur la Syrie et le Liban où il n'y avait pas de pétrole à la France, et le mandat sur l'Irak et la Jordanie où il y en avait à la Grande-Bretagne.
Si je peux me permettre de citer une lettre que je publie dans le numéro qui vient de sortir du Libre Journal.
Excellent
journal, n'est-ce pas? Oléoduc humanitaire. Les Américains vont enfin pouvoir faire passer le fameux oléoduc de 1500 km, estimé à 2 milliards de dollars, au beau milieu du territoire afghan. Ce pipeline reliera le Turkménistan au Pakistan. Le pouvoir ami actuellement en place à Kaboul, après la chute des talibans, a donc permis à Washington d'arriver à ses fins, le projet venant officiellement d'être signé. Les entreprises US se partageant bien sûr le gros œuvre pour la construction du pipeline. Alors, d'une part, c'est vrai que c'est scandaleux sur le plan de la simple éthique ou morale internationale de dire on va faire la guerre parce qu'une fois qu'on aura tout cassé, on pourra peut-être avoir une partie du marché de reconstruction.
Oui.
Mais en plus, c'est même pas un bon calcul parce qu'on l'a pas. Et alors, ce correspondant ajoute, qui sait, l'affaire remonte à loin, qui sait par exemple que M. Hamid Karzai, le président afghan actuel, est un ancien consultant de l'entreprise pétrolière US Unocal, qui avait déjà lourdement investi il y a 5 ans dans ce projet, en accord avec le pouvoir taliban de l'époque. C'est quand même extraordinaire, ça. Cette collaboration avait été interrompue par les attentats contre les ambassades des États-Unis en Tanzanie et au Kenya. Et depuis 10 ans, les Américains ont mis progressivement la main sur les champs de pétrole d'Asie centrale, Kazakhstan, Tadjikistan, Ouzbékistan et Turkménistan, dont l'exploitation demande un désenclavement qui se fera donc en partie par l'Afghanistan, en évitant évidemment l'Iran. L'un des proches conseillers de Bush dans cette affaire n'est autre que Zalmay Khalilzad, lui aussi ancien de l'UNOCAL. Autrement dit, il s'agit véritablement d'une opération strictement pétrolière. Hein, on a monté un coup qui est lié uniquement aux intérêts pétroliers, même pas des États-Unis, mais de la famille Bush.
Tout à fait. On me fait passer aussi une question. La menace de guerre contre l'Irak déstabilise le monde financier et l'emploi. Ça risque de les déstabiliser, surtout chez nous. Parce que si les prix du pétrole flambent, je rapproche ça aussi quand même de la situation au Venezuela, si les prix du pétrole flambent, ce sont des économies comme l'économie française où il n'y a pas de pétrole qui en sont les premières victimes. En revanche, je pense que l'industrie de l'armement américaine, dont on connaît la puissance, ne souffrira pas d'un conflit.
D'autres donc, questions?
Où irons-nous chercher, c'est le même genre que ce que le dernier message, où irons-nous chercher notre matière première si nous n'allons pas faire la guerre ainsi que les autres? Ne pensez-vous pas que les Américains vont prendre tous les droits en Irak?
C'est absurde. où allons-nous chercher nos matières premières? Elles sont entièrement sous le contrôle d'une seule superpuissance. Nous avions avec l'Irak des relations privilégiées. On fait grief à ce pays, par exemple, d'avoir voulu se doter d'une industrie atomique. Je rappelle que cette industrie atomique, elle était construite, la centrale aux Irak était construite par la France.
Au Chirac,
N'est-ce pas? Et qu'on l'appelait, oui, la centrale au Chirac, oui. Par conséquent, il y avait là un pays qui était notre partenaire, qui était un ami privilégié, et dont les ressources auraient permis d'assurer notre indépendance énergétique à un prix très inférieur aux cours mondiaux. C'est donc absolument le contraire de ce que pense cet auditeur. Nous avons intérêt, au contraire, nous, puissance moyenne, nous avons intérêt à un monde d'État souverain et indépendant. Nous avons intérêt à une diplomatie ouverte. Nous n'avons pas intérêt à la domination d'une superpuissance qui s'exercera évidemment au bénéfice de cette superpuissance et pas au nôtre, c'est évident.
La France...
Je m'excuse, je vois que Maître Méry vient d'arriver. Bonsoir Maître.
Bonjour.
Enfin, je dis je vois, comme si je l'ai vu rentrer, bien sûr. Ouais. Non, simplement, je voulais vous demander, vous aviez un avion à prendre.
Non, ça va, j'ai
donc,
tout le temps.
Vous avez le temps.
J'ai tout le temps,
donc,
oui,
voilà, parce que je
ne
voulais
dernier.
Pas vous faire
non, j'ai pris le dernier,
rater votre avion, ce n'est pas le moment, parce que quand on rate un avion, maintenant, on passe des nuits dans les aéroports. On parlera d'ailleurs tout à l'heure avec vous. Je vous en prie, Victoria.
La France a des intérêts économiques en Irak. L'armée française n'ira pas là-bas pour soutenir les Américains, mais pour défendre ses propres intérêts. Mais cela, il ne faut pas le dire aux Français.
Non, mais ce n'est pas exact. Si nous avons des intérêts économiques, c'est dans le cadre de relations pacifiques avec un gouvernement indépendant. Si nous contribuons à la destruction de ce gouvernement, même si je reconnais volontiers qu'il s'agit d'un régime autoritaire et même dictatorial, mais si nous avons à traiter nos intérêts économiques en Irak avec un proconsul nommé par les États-Unis, je ne vois pas très bien où nos intérêts, qui sont d'ailleurs aujourd'hui totalement bafoués, puisque le bloc que l'on impose à ce pays depuis 10 ans et qui l'affame complètement, l'empêche précisément de négocier librement avec un pays comme le nôtre. Et par conséquent, je ne vois pas du tout ce que nos intérêts ont à y gagner. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'entreprises françaises qui seraient intéressées par des relations avec l'Irak dans le cadre précisément de relations bilatérales.
Je dirais un mot, Bruno. Ce qui est grave, c'est que la désinformation qui s'est exercé là ces derniers temps est tel que des auditeurs certainement très honnêtes quoi sont la victime puisque quand on lit ce message on en est un petit peu très 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 étonné, mais je crois que la désinformation a atteint des sommets puisque des pays qui soi-disant ont des armes de dissuasion de toutes sortes et toutes catégories dissuasives ou pas fait que si les États-Unis devaient faire la guerre à tous ces pays-là, c'est le monde entier pratiquement qu'il faudrait qu'ils prennent sous leur domination. Embarquer, c'est peut-être pas impossible qu'ils en aient l'arrière-pensée.
Bien sûr.
Il ne faut pas oublier que Saddam nous vendait le pétrole à 16 centimes. Si nous étions une Europe réelle, nous casserions le blocus et Saddam nous le vendrait encore au même prix.
Oui, ça, je crois que c'est vrai. Ça. C'est plus exact que...
Au sujet de l'affaire irakienne, il a été rapporté plusieurs fois dans les médias que si la France utilisait son droit de veto au Conseil de sécurité, elle risquait de perdre son siège comme membre permanent.
C'est tout à fait faux.
Mais qui peut décider
qui pourrait décider de cela? Il y a la Charte des Nations Unies, qui est un traité qui a été signé, ratifié par 150 États. Je ne vois pas. Alors, il est très possible si nous opposions notre veto, comme nous devons le faire, à l'entrée en guerre de la France ou même à la guerre tout court, à une guerre contre l'Irak. Il est très possible que les Américains passent outre. Mais au moins, ça aura le mérite de la clarté. Ça ne se fera pas en notre nom. Ça ne se fera pas au nom du monde occidental. Ça ne se fera pas avec notre participation. Et je crois que ça sera quand même beaucoup plus difficile pour le gouvernement des États-Unis.
Puis enfin, qu'est-ce que c'est que ce droit qu'on vous retire quand vous l'exercez?
Oui, c'est comme les gens qui disent ben moi je suis pour Le Pen mais j'ai pas voté pour lui au deuxième tour parce que j'ai eu peur de la guerre civile. Voilà, évidemment quand vous votez d'une façon qui ne convient pas à un certain nombre de gens, ils contestent le résultat par la violence, à ce moment-là, c'est plus la peine qu'il y ait des élections.
Mais justement, puisque on va peut-être arrêter sur le non encore une question.
Certains auditeurs ne captent capte pas bien vos propos. L'un d'eux nous téléphone. Il est scandaleux de dire que M. Ratier prend ses informations chez M. Thierry Messon.
Faut écouter M. Radio parler français et ça et moi parler français. J'explique. J'ai dit contraire. C'est Messon qui prit information dans Ratier.
Après, c'est sur la Côte d'Ivoire qu'on prendra.
J'espère
après,
que je ne choque personne, mais...
Mais je crois d'ailleurs que
c'est bien d'entendre la radio, c'est encore mieux de l'écouter.
Je fais la même présentation quand même. La présentation de monsieur.
Non, j'ai dit justement que il est regrettable que les informations innombrables que Ratier a publiées dans sa lettre faits et documents sur l'affaire du World Trade Center du Pentagone n'aient pas été collationnées ou compilées par lui-même. Emmanuel Ratier dans un livre qu'il aurait pu publier, qui aurait été infiniment plus intéressant, j'imagine, que celui de Messon que je n'ai pas lu, et qui nous aurait permis en tout cas de parler d'une façon beaucoup plus sereine de cette affaire, puisque chaque fois qu'on essaye d'en parler, on nous dit arrêtez de parler de Messon, c'est ceci, c'est cela, et tout. Bon, alors évidemment c'est un peu embêtant, c'est vrai, d'être obligé de faire tout le temps allusion à quelqu'un pour lequel on n'a aucune sympathie, mais le fait est qu'il a écrit un livre intéressant. Voilà, point à la ligne. Oui, je disais, on pourrait peut-être passer aux affaires intérieures, puisque vous faites allusion, Bruno Gollnisch, à ce qui s'est passé au mois d'avril, où au deuxième tour, des Français qui avaient voté Le Pen au premier ont fait un pas de côté en disant « Ah, deux fois de suite, c'est beaucoup quand même », avec le résultat qu'on sait. Je voudrais vous poser une question... D'abord à vous, puis ensuite je viendrai à Jean-Pierre, parce que c'est un autre aspect. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que ce résultat du mois de mai, après le résultat du mois d'avril, est une espèce de, comment dire, de point final à une aventure politique, une démarche politique. C'est-à-dire qu'on a l'impression maintenant que le maximum a été fait. Hein. Le Pen a été présent au deuxième tour et il s'est heurté à une espèce de veto majoritaire. On sait bien dans quelles conditions ce veto a été réuni, c'est certain. J'en fais pas de reproche. Je veux dire simplement, on a l'impression que c'est fini. Une pareille chance ne se représentera plus et que de toute façon, même si elle se représentait, on aboutira au même résultat.
Et alors qu'est-ce qu'on fait ? On va se coucher ?
C'est la question que je vous pose, cher ami.
Non, écoutez, si vous voulez me faire dire, qu'il y a en France des relais et des réseaux qui tiennent dans leurs griffes toute la société, comme mon confrère que je salue pour son combat courageux, comme je salue le docteur Dor aussi qui est entré entre-temps et qui se bat dans un autre domaine.
Votre confrère c'est Bernard Méry, puisque vous êtes avocat, il faut le rappeler
en situation d'omission, parce que c'est une profession que je n'ai plus le temps évidemment d'exercer. Mais tout de même, je suis scandalisé par ce qui lui arrive et je trouve que le Conseil de l'Ordre, je pèse mes mots en le sanctionnant, se déshonore. Voilà. Je m'inscris au premier rang des prochains sanctionnés, si besoin en était.
C'est en effet inadmissible la façon où on peut maintenant en France radier un avocat uniquement parce qu'il défend des idées.
Absolument.
Et en réalité, vous avez un Conseil de l'Ordre qui est aux ordres, de qui, eh bien, il faut le dire, puisque j'ai toujours dit, et dans l'arrêté que j'ai ici sous les yeux et que je peux publier, je peux donner à qui le voudra, vous noterez qu'un Conseil de l'Ordre s'offusque qu'un avocat, d'abord, puisse écrire des conclusions, puisse être libre de ses propos dans des conclusions, dans des actes qui sont produits devant les tribunaux, puisse même invoquer pour sa défense un article 41, alinéa 3, vous savez, la loi sur la presse, qui indique que nul pourra être poursuivi pour des écrits produits devant les tribunaux, mais qu'on dit, voyez-vous, il a le culot de prétendre qu'il pourrait ne bénéficier de cette immunité pour sa défense.
Alors, on va y revenir.
Alors on peut aller tout loin, excusez-moi.
Je vous en prie, tout à fait.
Je pars dans mon dossier.
Tout à fait. Mais vous avez raison. Donc je voulais juste très brièvement, parce que je crois que ce que vous avez à nous dire est très intéressant, quand même ne pas esquiver en bottant en touche la question de Serge de Beketch. je crois que ces réseaux sont extrêmement puissants. Nous ne l'avons pas découvert le 21 avril.
Les choses on a même claires. Découvert qu'on pouvait, malgré tout, les contrer.
On aurait pu dire, par exemple, à l'occasion des deux derniers scrutins présidentiels, Le Pen est arrivé en troisième position. Ça a été quelque chose de tout à fait extraordinaire. Mais ça montre aussi les limites de vos actions, parce qu'on ne peut pas espérer mieux. Bon, alors cette fois-ci, il arrive en finale. Bon, alors là, vous me dites, en vous faisant l'avocat... C'est du diable. Il y a besoin d'avocat d'ailleurs. Sa cause est mauvaise. Mais il est en finale. Mais finalement, il n'a pas été élu. Oui, c'est vrai. Le deuxième tour a montré ce dont personnellement je ne doutais pas, ni Jean-Marie Le Pen d'ailleurs, qui s'est jamais fait d'illusion, que nous n'avions pas dans le pays les relais et les réseaux suffisants.
C'est pas tellement
il a montré
ça,
aussi le cynisme extraordinaire. La violence, la brutalité de nos adversaires. Alors que le premier tour avait été relativement correct, tout d'un coup, ce déchaînement, sans aucune novation de notre part, si ce n'est que précisément à l'issue d'une élection dont personne n'a contesté la régularité, nous étions en finale.
Oui, alors, quand vous dites...
Mais ça, je crois que ça va s'émousser.
Oui, mais la question...
Ma conviction, c'est qu'il faut persévérer, que ce mur de mensonges ne prospère que précisément parce que dans la tête des gens, on a martelé un certain nombre de réflexes pavloviens, qui sont des réflexes de crainte, qui sont des réflexes de haine, que ça ne durera pas éternellement.
Mais justement, la question que je vous posais, c'était pas tellement celle de... Enfin, je me suis sans doute mal exprimé. Ce que je voulais dire, c'était que... Ce qui m'a frappé dans la différence entre le premier et le deuxième tour, c'est le fait qu'il n'y ait pas eu, comme il y a eu une mobilisation formidable, totalement artificielle, des gosses dans la rue, des manifestations, des radios, des télévisions, des journaux, des footballeurs, des marchands de tapis, donc
ça fait peur.
Ma réaction aurait été de dire...
Vous avez oublié, excusez-moi, le Conseil de l'Ordre des avocats, dont la prise de position partisane est particulièrement inadmissible.
Qu'il l'avait d'ailleurs, qu'il avait déjà eu avec Haider en Autriche.
Je pense que si j'avais été un électeur de Chirac ou de Jospin, dans une circonstance comme ça, étant donné mon caractère, qui me semble, on dit que les Français ont la tête près du bonnet, qui réagissent, qui se laissent pas emmerder. Moi, j'aurais dit, écoutez, puisque c'est ça, de toute façon, Chirac est sûr de gagner, alors je vais voter Le Pen, parce que vraiment, il faut montrer à cette racaille qu'on va pas se laisser impressionner comme ça. C'est intolérable ce qui s'est passé. Or, c'est pas ce qui s'est passé. Il y a beaucoup de Français qui ont... D'abord, il y a eu des gens qui ont voté Chirac, des gens de gauche qui ont voté Chirac, qui est ahurissant, enfin, en disant on préfère voter pour l'escroc que le facho. Ensuite, il y a eu des gens qui avaient voté pour le premier tour qui l'ont pas fait au deuxième, j'en connais. Il y a des gens qui n'avaient pas voté pour Le Pen au premier premiers qui l'ont fait, mais beaucoup moins qu'on pouvait le penser.
Nous avons eu quand même 1 million de suffrages supplémentaires. Et moi, je crois, on peut toujours trouver le verre à moitié vide ou à moitié plein. Je pense que dans le contexte littéralement hystérique de sidération de l'opinion, d'appel à la guerre civile, tous les ressorts justement de ces réflexes, je dis réflexes pavloviens, que l'on met dans le crâne des enfants par une propagande qui commence à la maternelle. On a joué de tous ces ressorts. Je vous conseille de lire le livre de notre...
formidable, le bouquin de Daouda. Daouda,
exemple,
formidable bouquin. Formidable.
À ce sujet... qui vient d'être écrit sur le tour infernal. Compte tenu de cela, le fait qu'il y ait eu autant de gens qui y aient résisté, et même que le nombre d'électeurs ait très sensiblement progressé, 1 million, ça n'est pas rien entre les deux tours, et malgré tout réconfortant. Nous sommes d'une certaine façon plus nombreux que ne l'étaient les dissidents sous le régime soviétique, et ce sont les dissidents qui ont fini par avoir la peau du régime.
Vous avez dit d'autre part qu'il y avait eu, je crois que vous avez fait une déclaration récemment sur le nombre des adhésions depuis le résultat.
Le nombre d'adhésions augmente très considérablement. Il augmente très considérablement. Non, je crois qu'il ne faut pas que les gens se démobilisent. Et en particulier à l'occasion des élections partielles, parce que c'est vrai, on comprend les gens qui sont un peu saturés de politique et qui se disent, oh, bah, puisque le système est ainsi, ça ne vaut pas la peine de voter. Il y a des gens qui s'imaginent, qui contestent le système en s'abstenant. Or, c'est très exactement le contraire. L'abstention conforte précisément les tenants du titre. Et c'est pourquoi vous me permettrez quand même de plaider pour mon ami Jean-Pierre Revaux, dont j'ai été le collègue à l'Assemblée nationale, et qui est un homme d'une rigueur, d'une droiture, d'une loyauté et d'un courage tout à fait exceptionnel, et qui mériterait vraiment de représenter cette 17e circonscription. Donc, je serai heureux d'ailleurs dimanche prochain de distribuer cet acte.
On peut annoncer officiellement que Bruno Gomes soutient la candidature de
sur les marchés.
Revaux,
voilà,
scoop, Serge.
Voilà. Et puis j'invite d'ailleurs tous ceux qui ont quelques sympathies dans nos amis parisiens à venir partager la galette des rois, 5 rue de la Croix-Nivert. Est-ce que je peux faire ça? C'est
oui, dimanche.
C'est très gentil. Dimanche 12 janvier. Au forum de Grenelle, 5 rue de la Croix-Nivert, à 15h, mais il vaut mieux s'inscrire si on veut avoir de la galette. Il vaut mieux s'inscrire.
En général, si on veut avoir de la galette, il faut s'inscrire.
0145-22-25-91. Je répète, 0145-22-25-91. Merci, monsieur.
C'est pour la galette.
Mais m'avoir permis de lancer cet appel.
On va appeler les électeurs du 17e. Alors, les braves soldats du 17e.
Voilà, braves soldats du 17e.
On va faire la mobilisation.
Oui.
Qu'est-ce qui s'est passé, Jean-Pierre? Pourquoi y a-t-il des élections?
Il y a des élections parce qu'il y a une c'était finalement c'est madame Le Petit qui a été élue socialiste pendant que depuis des décennies c'était une circonscription qui était à droite puisqu'il y a eu les Missoff et puis après
à droite Missoff
voilà et madame de Panafieux qui est la fille
de Missoff,
etc. qui avait succédé mais là
la
cette fois elle a préféré cette fois aller dans la partie la plus bourgeoise du 17e qui commence à la porte Maillot
comme le chien de l'écriture
sur la plaine Monceau et Stefanini a pris la place mais il s'est fait battre 256 voix. Alors il a fait un recours en annulation en disant que il y avait des affichettes qui avaient été apposées et en indiquant qu'il avait été mis en examen.
Mais c'était vrai
ou pas?
Premièrement, c'était vrai qu'il y avait des affichettes?
Oui, il y avait des affichettes.
Et deuxièmement, c'est est-ce que c'était vrai qu'il était mis en examen?
Je crois qu'il y a eu, il y avait là des problèmes d'emploi fictif et autres, mais enfin j'en dirai pas plus puisque c'est pas.
Non mais c'est quand même intéressant de savoir
pas,
que
nous n'avons.
En disant la vérité, on peut entraîner l'annulation d'une élection. Ça montre la victoire de Monceau.
Compte tenu de la courte victoire,
pas une émission de culpabilité.
C'est un critère de bonne conduite.
Bien évidemment, je suis d'autant plus, je dirais d'autant plus. Je ne vois pas ce qu'il y a de pécamineux dans le fait de dire que quelqu'un est mis en examen, puisque s'il est mis en examen, c'est justement parce qu'il est innocent. On sait bien les cloyes. On connaît beaucoup de coupables qui ne sont pas mis en examen.
C'est vrai. Alors, l'élection a été annulée, donc c'est pour ça qu'on revote le dimanche 21 janvier, j'insiste sur le 21 janvier.
Ça, c'est le jour.
Et je dois reprendre ce que disait Bruno Gollnisch. Si nos électeurs se mobilisaient, les électeurs notamment des présidentielles, et compte tenu des abstentions habituelles, mais il y a une chance de passer. S'ils étaient tous mobilisés, on arriverait en tête de la droite.
On est entre nous. Vraiment, mais au fond, vous êtes royaliste, là. Au fond de votre cœur.
Ah bon? Mais je sais pas pourquoi. Mais je suis pas
à cause de la date.
Mais non, mais enfin.
21 janvier, bien sûr.
Au fond de son cœur, il est royaliste. Il participe à la démocratie parce que c'est maintenant, c'est le système comme ça. Mais à la démocratie parlementaire, mais enfin, si on aurait un roi, vous seriez pas fâché.
Oh, mais pas fâché.
Mais Jean-Pierre Revaux est un modéré. Modéré en toutes choses. Donc, c'est un démocrate modéré.
Et donc, je voulais dire, c'est simple, c'est l'occasion ou jamais pour les monarchies du 17e, qui sont nombreux,
bien sûr,
de manifester. de faire un acte positif le 21 janvier, parce que on a l'habitude, nous les royalistes, de se réunir le 21 janvier pour verser des larmes justifiées et abondantes
sur
la mort de notre bon roi.
Oui,
mais on peut aussi faire un acte positif d'espérance allant voter pour quelqu'un qui, au fond...
Si on
mettait le retour du roi aux voix, je pense que au Parlement, il y aurait au moins une voix.
Ça a été un assassinat abominable et que je déplore et que c'est une grande tâche sur...
On en est parmi et je ne pense pas qu'on en s'en remettra.
Là, je partage à 100% votre analyse.
Donc, il y a une chance...
vous savez, comme dit Le Pen, quand on ne prend pas le départ d'une course, on n'a pas de chance de la gagner. Mais là, je pense que nous pouvons... et je suis arrivé d'ailleurs, ça fait plus de 15 ans que je me présente dans cette circonscription depuis 1988, et j'ai quand même été élu, conseiller de Paris, donc conseiller général, et élu également de Paris, conseiller régional, donc en conséquence, et je suis en général en troisième position, mais j'espère bien cette fois être en seconde, et puis on ne sait jamais.
Mais
on va se battre, en tout cas, on va se battre, et on fait campagne, une campagne très active, on distribue beaucoup de tracts sur les marchés, on boite, on colle des affiches, on fait ce que l'on peut, puis avec les moyens que l'on a. Malheureusement, comme de bien entendu, on n'a pas beaucoup accès aux médias officiels. Ça, c'est réservé, bien sûr, à l'UMP et aux socialistes. D'ailleurs, on sent de plus en plus actuellement que pouvoir en place, d'ailleurs, très accotiné avec le Parti Socialiste, essaie de bipolariser actuellement la France pour qu'il n'y ait plus que deux partis, bien sûr, eux et les socialistes.
Mais en l'occurrence, là, dans le 17e, c'est même comique ce qui se passe, parce que il va y avoir une candidate UDF.
Absolument.
Qu'est-ce que c'est encore ils veulent vraiment faire passer la socialiste, alors.
Oui, c'est-à-dire que...
C'est-à-dire qu'on va normalement, au deuxième tour, on va avoir Revault contre Petit. Et alors, qu'est-ce qu'ils vont faire, Stefanini et l'UDF?
Normalement, si les électeurs s'avèrent connaître les véritables gens de droite, les vrais, et puis les nationaux et ceux qui défendent vraiment les intérêts de la France, eh bien, ils n'hésiteraient pas. Malheureusement, vous connaissez la désinformation permanente, et tout à l'heure, vous parliez du deuxième tour. Moi, je crois que la propagande Staffel était de la rigolade à côté de ce qu'on assiste aujourd'hui.
Bon, on dit beaucoup de mal de la propagande Staffel. Il faut mieux parler de la propagande stalinienne.
Oui, mais non, mais je veux dire, parce que c'est resté
longtemps. Ça a duré moins longtemps, quand même.
Oui, et puis c'est ceux-là qui ont été les plus vilipendés, quoi.
Ah bah oui, c'est ça. Donc, le premier tour, 21 janvier, deuxième tour, le
2 février.
Revaux.
Voilà, bon. J'ai déjà, vous voyez, mais...
Et elle vote dans le 17e,
hélas, je ne suis pas dans le 17e.
Ah bah alors...
On n'est pas un brave soldat du 17e.
Oui, non.
Mais vous connaissez peut-être des gens qui... Voilà. Y habitent et qui sont
je vais vous faire appel à tous les électeurs, surtout de se mobiliser et de ne pas manquer de remplir leurs devoirs électoraux.
Vous allez faire des marchés
Bien sûr, on va en faire
dimanche,
un.
Dimanche, nous allons faire un.
À 10h du matin, avenue de Saint-Ouen. Et d'ailleurs, nous avons eu au cours des deux derniers marchés que nous avons faits, un très bon accueil dans ces quartiers populaires, et vraiment énormément de gens nous ont dit on en a ras-le-bol, c'est finalement c'est vous qui avez raison, et au moins vous vous battez, les autres ça ne bouge pas, et on assiste à de la mise en scène, de la gesticulation, comme je disais tout à l'heure, mais rien de sérieux. Et là, malheureusement, et je le regrette d'ailleurs, rien ne pourra s'arranger dans les semaines ou les mois à venir, tant sur le plan de l'insécurité que sur le plan de l'économie. Il ne faut pas se tromper.
Bon, écoutez, c'est ce qui nous reste à faire.
Ce que je peux dire, c'est que je fais quand même une campagne de quartier, c'est-à-dire et on s'intéresse à tout ce qui se passe.
Oui, c'est vrai, au fond, on a parlé de choses générales, mais en particulier dans le 17e.
Alors, en deux mots, il y a des squats, et là, on réclame leur évacuation, bien entendu. On veut réhumaniser ces quartiers, lutter contre la drogue, et notamment dans la partie du 18e, là, il y a de l'existence de centres de toxicomanie qui amène beaucoup de perturbations et d'ennuis aux riverains. Et puis, on veut surtout engager une véritable politique de propreté, parce que depuis que l'équipe socialiste est au pouvoir et que Monsieur Delanoé, le chouchou des médias, règne sur l'hôtel de ville, jamais la ville de Paris n'a été aussi sale. Il faut bien le reconnaître. Ainsi que, on est pour, bien sûr, le maximum de crèches. Et là, il y a des programmes qui sont très, très en retard par rapport à la demande. Et puis, également, nous sommes pour le petit commerce. Et quand on voit qu'il y a là des projets d'implantation de grandes surfaces sur Aubervilliers, à la limite du 17e et 18e, nous sommes bien sûr contre ces implantations qui vont encore faire disparaître nombre de petits commerces.
C'était prévisible,
de proximité.
C'était tout à fait prévisible, le redémarrage des grandes surfaces, puisque justement il n'y avait pas d'échéance électorale qui était prévue. Vous savez bien que les grandes surfaces, c'est toujours quand il y a des plages non électorales qu'on les construit, parce que le fric versé en pot de vin permet de financer les campagnes, et l'imbécile d'électeur a largement le temps d'oublier que le type qui se présente à ses suffrages est celui qui a fait moyennant finance, construire la grande surface.
Absolument. Donc, la corruption a atteint des sommets énormes.
Elle fait partie du jeu.
L'ennui, c'est que la corruption fait perdre des voix, finalement. Quand vous dénoncez la corruption, vous perdez des voix. On me faisait remarquer tout à l'heure dans mon bureau qu'une personne s'était présentée justement contre la corruption dans le 78, et qu'elle n'avait eu que 2,7% des voix. Donc, j'en déduis que dans ce
97% des gens sont pour le.
C'est qu'on a l'impression que maintenant, seules les personnes qui corrompent et qui piochent dans la poche des autres n'ont que le droit de parler. Bon, on dira tapis, regardez, sans vouloir mais ça, on voit qu'il renaît toujours de ses cendres.
Tapis, j'ai rien, mais là, il y a Schuller qui vient d'envoyer une circulaire Schuller à tous les électeurs de Clichy.
Ou alors le maire de Levallois. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un critère maintenant de confiance. Voilà. Si vous êtes corrupteur, vous allez bien gérer votre ville.
Et alors, Schuller, c'est formidable. Il a passé 7 ans en cavale, une cavale de milliardaire. Alors, il faut lire le livre de son fils, qui est formidable. Oui. Il a, c'est un gamin qui a écrit, qui a fait écrire par une journaliste un bouquin qui est un long cri de désespoir. On comprend avec un père comme ça, mais dans ce bouquin, il y a des informations tout à fait extraordinaires sur la vie que menait le père. Mais c'est inimaginable l'ignominie de cette vie de milliardaire, où il raconte, écoutez, fermez les oreilles des enfants, il dit que quand il arrive chez son père, un soir, il va le voir dans le paradis des Bahamas, ou je ne sais où il vivait, dans une villa de multimilliardaires, avec 3 ou 4 voitures, 4x4, piscine, soirée partout, enfin, tout ça au milieu des trafiquants de drogue, de la pire racaille qui soit, et il dit un soir, j'arrive, et je vois un type qui traverse tranquillement le salon, au milieu, il est en pleine porte, habillé, vêtu d'un seul préservatif. Voilà. Voilà, ce type qui reçoit son fils chez lui, le reçoit dans des circonstances comme ça. Et il arrive là, il vient de distribuer une lettre circulaire aux habitants de Levallois, en leur disant, après 7 ans d'exil douloureux, je viens m'occuper de nouveau de la France et des habitants de Clichy. Mais vraiment, l'indécence sinistre de ces gens-là,
vous avez remarqué qu'il est sorti tout de suite de prison. Ah, oui. On l'a mis pour la forme, je crois, 2 semaines. Oui. Et aussitôt après, se promener sur les Champs-Élysées avec tous les photographes.
Je pense qu'il va recevoir des indemnités.
Non, il va avoir une Légion d'honneur, c'est sûr, s'il n'a pas déjà, ou peut-être.
Vous savez, le pire, c'est le crime.
Docteur.
Non.
Et un docteur. Si, laissez-les parler.
Le pire, c'est le crime. Vraiment. Là, on dénonce beaucoup de choses, bien entendu, la corruption, ça. Mais le pire, on tue plus de 1000 enfants par jour. C'est ça qu'il est. Et on parlait tout à l'heure de la marée noire, mais la marée noire, elle est chez nous. Elle est au Grand Orient, elle est.
J'ai tous ces francs-maçons. Si vous attaquez les francs-maçons,
vous allez être radié.
Oui, oui.
Je pense qu'il faut parler
franc, parler net.
On va vous donner la parole, docteur, mais pas tout de suite. Votre heure n'est pas venue, comme dirait l'ange.
Si, il faut laisser parler le docteur.
Non, mais c'était intéressant, la notion de corruption. Est-ce qu'il faut encore combattre la corruption si on veut encore subsister politiquement.
C'est vrai.
Est-ce que, justement, ce n'est pas cela qui dérange nos réseaux, qui veulent travailler et travailler ensemble sans qu'on les dénonce? Est-ce que c'est encore, la question est posée, est-ce qu'on peut encore, en France, dénoncer la corruption?
Mais, cher Arrête, les seuls qui peuvent répondre, ce sont les électeurs. Et notamment, le 21 janvier, ils ont un moyen de dire, écoutez, on en a marre, on voudrait enfin un candidat qui soit propre sur lui. Bon, s'ils ne veulent pas, on peut pas.
Je dois dire, avec Jean-Pierre Revaux, ils sont sûrs de ne pas.
Je crois que la hargne qu'il y a contre nous, réellement cette haine, etc., vient de cela, justement, parce que nous dénonçons ça et on n'a rien à nous reprocher au Front National, et ça, pour eux, c'est inacceptable, vous vous rendez compte. Comment ces gens-là, c'est pas possible, tandis que tous les autres sont dans le coup, quoi. Il n'y a pas de problème. On a vu ça avec les lycées de la région Île-de-France.
Qu'est-ce que vous voulez dire, Victoria?
Nos auditeurs nous font remarquer, je ne sais pas si c'est Serge, Jean-Pierre ou moi, nous avons dit le 21 janvier, c'est le 26 janvier l'élection. Oui, mais je l'ai écrit. Je l'ai écrit. Bah oui, mais depuis tout à l'heure, vous parlez du 21. Ça a glissé sur le 21.
C'est le 26 janvier. Non, c'est pas moi qui
l'ai
pas
dit.
Non, c'est à cause de la galette des rois, mais la galette des rois, c'est le 12.
Le 26 janvier et le 2 février.
Absolument. 26 janvier, 2 février, tout à fait.
Demain matin.
26 janvier.
Dimanche 26.
Absolument.
Alors, si...
Demain, nous réécouterons l'émission et nous saurons à qui nous devons taper. J'espère que
c'est à Serge, mais je ne voudrais pas délateur.
Il a des excuses.
Il est un démocrate très, très modéré.
Au point où j'en suis, on peut... Alors, il y a encore des questions.
Et puis,
il y en a une qu'on m'a passée. Excusez-moi, j'y réponds brièvement. Pourquoi M. Le Pen n'a-t-il pas demandé l'annulation de l'élection présidentielle pour la raison que dans certaines circonscriptions, ces affiches avaient été totalement détruites? Me demande Jean-Claude, qui a été déçu de notre inaction, en quelque sorte, dans ce domaine. Je dirais qu'il y aurait eu beaucoup d'autres motifs de demander l'annulation. Et surtout, le plus grave, c'est qu'il y ait la violation constante et délibérée de la règle légale formelle selon laquelle, je la cite de mémoire, n'est-ce pas, entre les deux tours de l'élection présidentielle, les temps de parole des candidats de leur soutien doivent être rigoureusement identiques. Les commentaires et présentations ne doivent porter préjudice à aucune des deux candidatures. Voilà le texte officiel de la loi organique, du décret, des recommandations du Conseil supérieur de l'audiovisuel qui ont valeur réglementaire et qui ont été publiées au Journal officiel de la République française. Nous avons fait quantité de démarches, y compris moi-même, trois fois entre les deux tours auprès de M. Baudis et du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Pourquoi est-ce que nous n'avons pas fait cette démarche? Eh bien parce que, d'abord, le Conseil constitutionnel est nommé. Ce sont des personnalités à qui je ne ferai pas injure de dire qu'elles sont nommées à raison de leurs allégeances politiques. Le président du Sénat, le président de la République et le président de l'Assemblée nationale nomment généralement leurs amis au Conseil constitutionnel. Bon, premièrement. Et dans cela, nous ne comptons évidemment aucun appui. Premièrement. Deuxièmement, même si le Conseil constitutionnel avait été impartial, il aurait appliqué la jurisprudence traditionnelle du droit public français, qui veut que l'on annule une élection que si on a la certitude, la preuve, que l'irrégularité commise ait pu avoir une incidence sur le résultat de l'élection. Dans le cas de l'élection où se présente Jean-Pierre Revaux,
156 voix.
Monsieur Stefanini a obtenu l'annulation parce que l'irrégularité commise, cet affichage sauvage rappelant sa mise en examen, a pu entraîner un déplacement de voix dans la mesure où l'élection de son adversaire n'a été acquise qu'à une très faible marge. Quand vous avez une marge si importante, les irrégularités ont beau avoir été considérable, monstrueuse, scandaleuse, eh bien, on n'aurait pas obtenu l'annulation. Et on aurait obtenu donc un effet contraire. C'est qu'un certain nombre de gens qui croient naïvement que le Conseil constitutionnel est une instance tout à fait impartiale auraient dit, ben voyez, le Conseil constitutionnel estime finalement que tout s'est bien passé. Il nous a semblé inutile, il nous a paru inutile de donner en plus à nos adversaires cette satisfaction.
Le vernis. Voilà. Non, cela dit, il faut quand même préciser, c'est vrai que les membres du Conseil constitutionnel sont nommés en raison de leurs appartenances politiques.
Souvent.
Mais il faut quand même préciser. préciser, c'est important, qu'on choisit quand même des personnalités éminentes et parfaitement honorables et respectables, qui sont des parangons de vertu, ce qui est quand même la moindre des choses, parce que...
Non, mais c'est, vous pensez à M. Roland Dumas, par exemple.
Mme Rosès aussi,
ce sont quand même des gens qui sont...
Je défendrai quand même certains membres du Conseil constitutionnel, il y en a quand même qui sont tout à fait compétents et tout à fait honnêtes. Je pense à un homme qui a été nommé pourtant par M. Laurent Fabius, mon ancien directeur de thèse, le professeur Jacques Robert, qui certainement ne partage pas mes opinions politiques, mais que je considère comme un grand honnête homme. Voilà, il y en a quand même quelques-uns. Donc on aurait pu essayer de faire valoir notre bon droit. Et, voilà, je ne crois pas qu'il aurait triomphé malgré tout.
Nous arrivons à la fin de cette première partie. On va dans la deuxième partie donner la parole au docteur Dor et à maître Bernard Méry dans l'autre ordre, parce que maître Bernard Méry doit quand même prendre son avion. Docteur, vous n'avez qu'un vélo à prendre, vous?
Le métro.
Bon, alors et puis ensuite, je pense que nos jeunes gens sont arrivés. Si Bruno Gollnisch est toujours aussi passionné de bande dessinée qu'il y a quelques années, il pourra participer à notre conversation. Eh bien, nous reprenons donc cette émission pour la deuxième partie avec certaines personnes de la première partie, à commencer par Jean-Pierre Revaux, à qui j'ai demandé de rester parce qu'il y a encore, et Bruno Gollnisch aussi, il y a encore une ou deux questions, ou même trois ou quatre, qui peuvent solliciter leur bienveillante attention.
Alors, savez-vous qui finance les rebelles de Côte d'Ivoire et qui les fournit en armes ? Ils sont, paraît-il, très bien armés.
Oui, ça dépend lesquels, en ce qui concerne les rebelles de l'Ouest, c'est peut-être un appui libyen, en tout cas, Campaoré aussi, et le Libéria, par exemple, oui. Mais nous n'avons pas de certitude là-dessus, nous ne sommes pas des experts, c'est en politique africaine. Il faudra demander à M. Lugan.
Il y a une information dans le Libre Journal là-dessus, je vous signale, qui est tout à fait originale, intéressante. Non, mais c'est très, très intéressant parce que c'est lié à la société propriétaire du Prestige. C'est pour ça que je parlais de ça tout à l'heure, ça paraît ahurissant. Mais cette société est une chose très extraordinaire, très, très peu connue, qui s'appelle les Crown Resources. C'est autrement dit, tout simplement, l'émanation modernisée de ce qu'on appelait au temps de la Reine Victoria le Privy Council. Autrement dit, c'est un groupe, c'est très anglais, c'est un groupe d'intérêts privés qui mène pour le compte de la couronne britannique et les intérêts de la couronne britannique étendus, des opérations que les États ne peuvent pas mener directement. Et c'est notamment ces gens qui ont été... Bruno Gollnisch parlait tout à l'heure, je crois, de la chute de l'Empire ottoman à la fin de la guerre 14-18. Eh bien, cette opération a été menée notamment par quelqu'un qui a laissé une trace dans la littérature et dans le cinéma, qui s'appelait Laurence d'Arabie. Laurence d'Arabie était un homme qui était actionné par le Crown Office, autrement dit par le Privy Council. C'est également le cas de Gordon Pasha, et c'est la même équipe qui a lancé la guerre de l'opium en Chine pour imposer à la Chine. L'histoire est extraordinaire.
L'importation d'opium.
L'histoire est extraordinaire parce que, en deux mots, la Chine ne s'intéressait pas à l'argent occidental. Ils n'en voulaient pas.
Oui.
On voulait leur acheter des choses, de la soie notamment, et des tas de produits dont ils étaient les seuls à disposer. Et on leur disait, on va vous payer en objets manufacturés. Ils disaient, non, on n'en veut pas, on n'en a pas besoin. Bon, on va vous donner de l'argent. Mais l'argent, on n'en a pas besoin. Vous nous avez déjà donné tout l'argent que vous pouviez. Et l'Occident s'est trouvé dans une situation de carence monétaire. Il n'y avait plus assez d'argent puisque les Chinois bloquaient tout, et comme ils n'achetaient rien, ils ne renvoyaient pas l'argent, donc ils avaient bloqué le système. On a cherché un moyen de les contraindre à acheter quelque chose, et c'est comme ça qu'a été déclenchée la fameuse guerre de l'opium, qui a forcé les Chinois à accepter, à la suite de deux guerres successives qui étaient parfaitement iniques, On leur a forcé à acheter de l'opium pour empoisonner leur propre population et faire ainsi sortir le fric de leur caisse. Voilà.
Absolument.
Et tout ça a été mené par une société, donc, qui aujourd'hui, par une espèce de groupe, de nébuleuse de société, qui aujourd'hui est impliquée directement dans les histoires que nous connaissons. Voilà ce que vous pourrez lire dans le livre journal si vous vous intéressez à cette lecture. D'autres questions, ma bonne Victoria ?
À propos du Liban et de la Syrie, vous parlez de régime arabe laïque. Êtes-vous sûr que la France est encore laïque quand le porte-avions Charles de Gaulle fait escale au Moyen-Orient pour permettre aux marins musulmans de faire le pèlerinage de la Mecque et que l'armée française, a dit Dixit Philippe de Villiers la semaine dernière, est maintenant à majorité de confession musulmane?
Il faut tourner vers l'officier de marine.
Je ne dispose pas des statistiques confessionnelles à l'intérieur de...
Je ne suis pas au courant, mais
j'enregistre, c'est impressionnant. Il faut vérifier cette information.
C'est Philippe de Villiers qui dit ça.
Apparemment. Je ne sais pas s'il dit les deux, parce que la phrase est tournée comme ça. Faites escale. Donc, est-ce que la France est encore laïque quand le porte-avions Charles de Gaulle fait escale au Moyen-Orient pour permettre aux marins musulmans de faire le pèlerinage de la Mecque et que l'armée française, donc c'est bien Dixit Philippe de Villiers, c'est bien ça, la semaine dernière, est maintenant à majorité de confession musulmane. Donc, ouais, c'est Philippe de Villiers dit l'armée française est à...
Là je ne crois pas. Je prends la parole,
comme dit Sanders.
Là, c'est quand même un peu exagéré, mais il y a de nombreux beurres.
Comme dit Sanders, c'est vraiment une époque épatante.
Sur le porte-avions Charles de Gaulle, c'est sûr.
Il y a eu des problèmes,
et notamment des problèmes de drogue.
Il y a toujours eu des problèmes dans la marine à cause du beurre.
On m'a raconté ce matin une histoire où, à Montrouge, des parents ont envoyé leur enfant, qui est au collège, dans une colonie de vacances. Alors autrefois, à Montrouge, il revenait communiste. Et bien là, il est revenu musulman. Et depuis qu'il est revenu de là, il fait 5 fois par jour ses prières. Les parents sont absolument stupéfaits. Voilà. Il a dû s'acheter son petit tapis parce qu'il l'entend à 5h du matin marmonner dans sa chambre. Voilà.
Qu'il fasse moins de bruit pour les voisins.
Alors, autre chose, j'ai entendu dire, nous dit cet auditeur, que M. Le Pen irait en Irak s'il y avait la guerre. Est-ce juste, M. Gollnisch ?
Rien n'est encore décidé à cet égard. Il y est rendu préalablement, mais rien n'est décidé. Non, je peux pas. Il n'est pas en France en ce moment, donc je ne peux pas parler pour lui à ce sujet. Nous étions ensemble au Liban, mais il m'a pas fait part d'une attention aussi précise pour le moment.
Pourquoi ne pas lancer une campagne de pétition contre la guerre, contre l'Irak, qu'on adresserait à l'Élysée ?
Oui, c'est une bonne idée. Très juste.
Bon. Elle existe, je crois, d'ailleurs, en Angleterre actuellement.
Oui. Nous avons signé, d'ailleurs, un certain nombre d'élus, nous avons signé une pétition qui a été lancée par un parlementaire qui n'est pas des nôtres, qui est un parlementaire de l'UMP, ce qui a eu pour effet, d'ailleurs, le retrait de quelques signatures qui ne voulaient pas figurer à côté de nos noms. C'est dire que l'imbécilité a encore de beaux jours devant elle.
Malheureusement, ce n'est pas commercialisable, encore que quand on écoute, par exemple, l'industrie du disque, on pourrait penser que si, mais autrement, on serait riche. Hein.
Mais on pourrait concevoir une pétition populaire de plus grande ampleur.
On pourrait être vraiment gros exportateurs. Il y avait une question que je voulais vous poser, Bruno Gollnisch, quand même, puisque vous êtes encore avec nous. C'est celle de l'attitude de Sarkozy, de Raffarin et de Chirac à l'égard des accidents de la route. Il n'y a pas un côté un peu cinglé dans leur comportement où d'un seul coup ils découvrent que alors qu'il y a 10 000 personnes qui meurent par exemple d'accidents nosocomiaux, c'est-à-dire d'accidents liés à la mauvaise hygiène dans les hôpitaux en France, personne n'en parle, et il y a 6 000 morts sur les routes, ça devient le crime contre l'humanité. Qu'est-ce que c'est que cette attitude ici?
Les morts sur la route, et surtout quand ça procède d'un mépris de la vie délibéré, C'est évidemment dramatique, ça doit être combattu. Aucun d'entre nous ne prend la défense des chauffards, mais je suis quand même inquiet de voir à quel point on charge aujourd'hui, en ce moment, l'automobiliste de tous les maux. Je voyais l'autre jour à la télévision fièrement proposer à la vindicte publique un homme qu'on nous présentait comme un multirécidiviste, qui a été d'ailleurs condamné à la prison ferme pour avoir été arrêté, je crois, la deuxième ou troisième fois avec 0,56.
Non, il avait 5 grammes d'alcool dans le sang, et il a eu 5 ans de prison, c'est-à-dire un an de prison par gramme.
C'est pas celui-ci. C'était 0,56 et il était condamné, je crois, à 3 mois de prison. Je crois que les premières limitations étaient à 1,2 g. Sauf erreur de ma part. Ensuite, à 0,8 g.
C'est-à-dire, voilà.
À 0,6 g. Et maintenant à 0,5 g. Alors, on peut évidemment essayer de constituer potentiellement toute la population française en criminel. Moi, je crois que ça ne remplacera pas l'amélioration des routes. Il y a quand même un certain nombre de questions qu'on peut se poser. Prenons l'exemple qui a justifié l'intervention de M. Chirac. N'est-ce pas? M. Chirac est venu à la suite d'une affaire dramatique où, sur l'autoroute Assis, 5 pompiers ont été fauchés par un notable. Moi je dirais à ce moment-là, en l'occurrence, il s'agissait d'ailleurs d'un notable RPR lyonnais bien connu. Je trouve que c'est un événement absolument dramatique, mais on peut aussi poser un certain nombre de questions. Les autoroutes en Belgique sont éclairées. Les péages sont maintenus, les péages qui n'avaient d'autre justification, je le rappelle, que l'amortissement de la construction des autoroutes et qui devaient disparaître 30 ans après cet amortissement sont maintenus pour l'entretien des autoroutes. On a vu ce que donnait l'entretien des autoroutes quand il y a 5 cm de neige en janvier. À la surprise générale, n'est-ce pas? C'est la panique. C'est vrai. Mais enfin, comment font les Norvégiens, les Polonais, les Russes?
Et en Alaska.
Je crois qu'une proportion considérable des morts que l'on déplore sont sur les routes départementales et pas sur les autoroutes. Alors, moi, j'adhère assez quand même à ce qu'a, au livre qu'a écrit un juge d'instruction, un magistrat indépendant, dont les idées ne sont sans doute pas du tout les mêmes que les miennes, qui est le juge Gallo. Un homme
qui est au placard depuis pas mal d'années.
Oui, mais de façon délibérée, parce que lui, il considère que c'est le prix de son indépendance. Ouais. Qui a écrit, entre autres ouvrages très 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 remarquables, un livre dans lequel il montre que dans un État qui ne respecte plus la vie, qui est incapable de faire respecter aussi l'ordre public, en réalité, l'automobiliste est le dernier exutoire de l'autorité publique. Il est évidemment plus facile de s'en prendre à des gens qui, malgré tout, ont du répondant, etc., de culpabiliser toute une population de cette façon-là, en prétendant lutter contre l'insécurité, parce qu'on dit oui, nous luttons contre l'insécurité, nous luttons contre l'insécurité routière. C'est un peu facile.
Et ça prend même des proportions qui sont complètement surréalistes, irrationnelles, dantesques. Il y a un jeune motard Dingo, bien entendu, qui a poussé une pointe de 200 à l'heure, mais en pleine nuit, il n'y avait absolument personne dans le tunnel de Toulon, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de voiture qui arrivait en face, il n'y avait pas de circulation. Il s'est payé un petit plaisir, il méritait de voir confisquer la moto, retirer le permis, tout. Il a pris 2 ans de prison ferme.
Oui.
2 ans de prison ferme.
Et Schuller est toujours libre.
Et Schuller lui envoie des lettres à ses électeurs pour leur dire votez pour moi, j'ai souvent de souffrir de cette année d'église.
Peut-être que le motard n'était pas RPR.
Oui, c'est possible.
Balkany.
Il y a, compte tenu par ailleurs du tassement des sanctions pour les meurtriers, pour des braqueurs. Pour
non, mais ça, c'est pas grave, ce sont des voleurs.
Une injustice, parce que l'ordre, la proportion normale des peines et leur adéquation aux fautes ce en quoi Confucius voyait il y a 2500 ans la recette du bon gouvernement, n'est-ce pas, l'exacte proportion des sanctions aux fautes et des récompenses au mérite. Mais ça n'existe plus. Et
c'est même obscène maintenant.
À partir de ce moment-là, nécessairement, la société est subvertie.
Oui, on peut dire une chose, Serge, quand même, ils jouent aux apprentis sorciers parce que là, ils sont en train de se faire un maximum de gens qui commencent à en avoir plus qu'assez.
Puisque... Je crois que ça leur permettra comme ça de passer le baigneur à la gauche aux prochaines législatives. C'est un pire truc, ça. Quand ils ont accumulé les bêtises pendant 5 ans, 4 ans, et ben ils passent aux voisins qui épongent légèrement et qui, 4 ans plus tard, recommencent. Ça fait quand même maintenant un demi-siècle que ça dure.
Oui.
Ce
n'est pas pour rejoindre les quartiers chics que Madame de Panafieux a changé de circonscription. C'est pour pouvoir dégommer Bernard Ponce. Donc
possible.
Voilà.
Mais
nous voilà retournés dans le 17e.
C'est complémentaire. Hein. Rien ne va. Ça peut aller l'un avec l'autre.
Hein. Oui. Nous voilà dans le 17e. Une auditrice dit : pourquoi parlez-vous du 17e arrondissement ? Il y aura une partie du 18e. Alors, précisons bien. Le 26 janvier, la 17e circonscription qui va voter comprend une grande partie du 17e et une petite partie du 18e. Et tout le monde va aller voter pour Jean-Pierre Revaux, candidat du Front National. Voilà. Il n'y aura pas un candidat pour le 17e et un candidat pour le 18e. Il y en a un seul.
Je vous engagez cette émission dans un combat partisan dont je suis obligé de m'abstraire. Vous comprenez, on peut pas considérer que cette émission est une émission qui soutient la candidature de l'un plus que de l'autre.
Candidature unique.
D'ailleurs, si Monsieur Stefanini veut venir dans mon émission, il peut m'appeler.
Il n'est pas venu dans votre émission, mais il est venu à Radio Courtoisie.
Je le recevrai, bien sûr, qui m'appelle.
Oui. Mais alors, ce que je peux donner, quand même, c'est les limites.
Et même Madame Petit, d'ailleurs.
Porte d'Anière, hein.
Et même Madame Petit.
Je suis pas contre. Hein, mais ça va, la circonscription, la 17e, va de la Porte d'Anière à la Porte Montmartre, et de l'autre côté, de la rue de Rome à la Place Vichy. Voilà les limites de la
circonscription. La rue de Rome, c'est un présage plaisant, la route de Rome.
Voilà.
Bien, alors maintenant je me tourne vers Bernard Méry. Bernard Méry, vous êtes venu déjà dans cette émission plusieurs fois et vous aviez présenté deux ouvrages, dont l'un qui s'appelle Les Nouveaux Parrains et l'autre...
C'était Justice, Franc-Maçonnerie, Corruption.
Voilà, Justice, Franc-Maçonnerie, Corruption. Vous vous êtes rendu fameux en entrant en résistance contre l'influence maçonnique au sein de la justice en France. Hein. C'est-à-dire qu'il y avait peut-être d'autres combats plus commodes et plus confortables à mener. Et le résultat, c'est que hier, on vous avait appris...
Ils ont des pratiques assez fréquentes, c'est que il y a toute une jour une signification. Vous savez que dans la signification maçonnique, le 24 décembre est le renouveau de la lumière. Or, ils ont donc choisi la date du 17 décembre, quelques jours avant le renouveau de la lumière, pour tuer, j'allais dire, l'obscurité que j'étais, puisque je dénonçais la franc-maçonnerie. Et je me fais un peu l'effet, si vous voulez, de ce brave homme, enfin ce pauvre homme peut-être, qui se retrouve en prison parce qu'il avait un peu trop bu, alors qu'il n'avait mis de 5 ans de prison, une sorte d'assommoir. Je me fais cet effet parce que je suis radié. Voyez-vous, un avocat qui n'a jamais touché à l'argent, qui n'a jamais commis quelque chose, c'est-à-dire détourné des fonds, fait des fraudes fiscales, conduit en état d'ivresse, assassiné sa belle-mère, tout cela n'est que broutille qui vous conduit à quelques mois de suspension avec sursis parce qu'on vous donne une chance. Vous savez que partout en France et ailleurs, on vous donne toujours une chance. Il y a toujours une première. En ce qui me concerne, il n'y a rien. Il n'y a rien, et qu'ont-ils fait ? J'ai sorti mon premier livre en 98 et ils ont mis 4 ans pour accumuler 8 affaires. 8 affaires, et cela se solde par ces différentes plaintes, parce qu'il y avait des plaintes, font apparaître une constante dans le comportement. Figurez-vous, 8 ans, 7 ans, 5 affaires pour un avocat qui en a des milliers. Enfin, c'est vrai qu'on en fait des milliers, mon confrère agoniste se souvient. Eh bien, on a sorti ces 8 affaires comme une constante dans le comportement, à savoir le recours systématique aux accusations d'appartenance à un réseau et singulièrement, voyez-vous, singulièrement à la franc-maçonnerie.
Parce que ça, ils disent
ah, c'est écrit.
Que vous êtes viré pour ça.
C'est écrit.
C'est extraordinaire.
C'est écrit comme cela. Alors, je vais vous donner un exemple de poursuite, qui est une phrase. Vous allez juger à quel point c'est dangereux. Et ça signifie la folie pure. J'ai écrit à un bâtonnier de Versailles. Je reçois votre courrier du 3 octobre à la signature éloquente. Ou inquiétante, selon, croyez-moi, confraternellement, vous devriez consulter. Eh bien, voilà un des types de poursuites qui me conduit, qui est une lettre, disons, d'un confrère à un écrivant, à un avocat confraternellement, mais privé, bien entendu, c'est-à-dire non public, et qui est simplement une sorte, un petit peu, j'ai cru penser qu'il y avait un peu d'humour. Et voyez-vous, ces termes-là font partie d'une des 8 affaires qui sont qualifiées comme un grave atteinte à l'honneur et qui conduisent un avocat à la radiation. Alors, la radiation, dans mon cas, me paraît être une élimination pure et simple. Vous voyez, nous sommes dans un État français qui, soi-disant, prône la liberté, l'impartialité, l'équité, et j'ai, en effet, mon combat était de dire qu'il y avait des réseaux. Il paraît que c'est pas vrai. Qu'il n'y a pas des réseaux et que de dénoncer des réseaux est contre l'honneur. Il paraît que tous les juges sont honnêtes par définition et prétendre que quelques juges ne le seraient pas serait un crime contre l'honneur et mettrait en cause l'intégrité ou l'institution judiciaire. Je dois dire que nous sommes dans un état actuellement qui est affolant. Il y a une sorte de mainmise sur la défense qui fait qu'on voudrait que ce qu'écrit un avocat soit préalablement contrôlé, estampillé par l'ordre des avocats, sous un régime que personne connaît, qui est la procédure du visa préalable. Alors, qu'est-ce que cela veut dire?
Mais si vous me permettez de vous interrompre une seconde, il y a quelqu'un qui a été victime de la même chose, pour des raisons légèrement différentes, il n'y a pas très longtemps, c'est Maud Marin.
Exact.
Maître Maud Marin a été radiée du barreau de Bobigny, je crois.
Oui, parce qu'elle
parce qu'elle avait écrit un livre dans lequel elle dénonçait l'impunité à peu près totale de la racaille. Protégée par la peur que les magistrats avaient. Elle racontait des scènes dans ce livre qui sont extraordinairement évocatrices. Elle raconte comment, par exemple, elle a vu une juge littéralement trembler de terreur devant un petit barbeau de banlieue qui la menaçait directement. Et pour ça, pour avoir donc en quelque sorte levé le voile, arraché le voile de Thémis, je ne sais pas si on peut dire ça, elle s'est retrouvée radiée, c'est-à-dire, j'espère que ça ne sera pas votre cas, mais dans le cas de Maud Marin,
c'est mon cas déjà.
Elle est Berufsverboten, c'est-à-dire interdite de toute activité professionnelle.
Mais attendez, c'est mon cas parce que voyez un petit peu l'absurdité ou la panique de ces gens, c'est qu'ils me radient. Dans le premier degré, c'est-à-dire qu'évidemment il y a un appel, mais ils ordonnent l'exécution provisoire, c'est-à-dire qu'ils vous radient, ils se moquent éventuellement du deuxième degré de juridiction, ils se moquent de l'effet suspensif, ils vous excluent, ils vous sortent dehors de la profession. C'est-à-dire que les clients que je défendais, et que je défendais bien, puisque tous mes clients actuellement sont derrière moi, actuellement sont privés de défense. Et que fait l'ordre? Il désigne un avocat, c'est-à-dire un avocat de leur côté.
C'est incroyable.
Et il va obliger, cet avocat va obliger ses clients que je défendais à accepter qu'ils prennent en charge leur dossier.
Non mais enfin.
Alors imaginez des clients qui attaquaient des francs-maçons, eh bien on va leur mettre un avocat franc-maçon qui va les faire perdre.
Mais c'est complètement fou.
Mais attendez, il faut lire cet arrêté rendu par des gens célèbres, aussi célèbres que la fille de Carrère d'Encausse, qui est actuellement secrétaire de la troisième formation disciplinaire, qui a à sa tête comme président un bâtonnier inamovible, parce que nous savons que l'ordre des avocats, qui est une émanation pétainiste, mais il faut le dire, un état à un moment donné qui n'était pas le
personnellement,
meilleur.
Personnellement, je ne lui en ferai pas le reproche.
Non, enfin. Non, je sais bien, mais c'était à une époque où il n'y avait pas, j'allais dire, c'était pas la plus grande démocratie. Il y avait quand même une. Quel était le but de l'ordre? Le but de l'ordre est de maintenir sous le contrôle. La défense. J'avais comme idée que l'avocat était le dernier rempart contre l'arbitraire. J'avais dans l'idée, parce qu'on me l'avait appris, que l'avocat était celui qui devait défendre.
Mais si vous me permettez une seconde, c'est très intéressant ce que vous venez de dire à propos de l'origine de l'ordre. Parce que l'ordre a été fondé par l'État français. Comme l'ordre des médecins, je crois.
Comme l'ordre des médecins.
Or, qu'est-ce qui s'est passé à la fin de cette période ténébreuse, de ces années noires, sombres, de la collaboration de l'État français, où la France a été écrasée par la dictature pétainiste? On pouvait imaginer que les libérateurs, revenant à la lumière et apportant l'air frais de la liberté, faisant souffler l'air frais de la liberté sur un pays accablé par la dictature, allaient, première chose, supprimer les institutions créé par le dictateur. Or, donc supprimer l'ordre des médecins et l'ordre des avocats. Et ça n'a pas été fait, curieusement. Alors moi, je me demande si c'est pas justement parce qu'ils se sont dit, ces libérateurs, que finalement, c'était pas une si mauvaise idée qu'il avait Pétain, et c'était simplement ce qu'il aurait fallu faire, et ce qu'ils ont fait, eux, c'était infiltrer ces institutions de ses propres hommes. Autrement dit, il faut pas s'étonner que la maçonnerie est immédiatement infestée des organisations comme ça, en se disant ça marche très bien, ça a marché jusqu'à présent très bien, et maintenant on va s'en servir. C'est un peu c'est la même chose que les voies de chemin de fer. Quand les libérateurs sont arrivés en France, ils n'ont pas arraché les voies de chemin de fer sous prétexte qu'ils avaient servi à faire rouler des trains pétainistes. Ils ont simplement fait rouler des trains gaullistes dessus. Et ben avec,
non mais les autres...
Donc voilà, le résultat,
non,
c'est
mais
aujourd'hui
il est évident
que c'est une organisation effectivement.
Mais c'est ce que je dénonce, c'est que les ordres sont là uniquement pour assurer que les réseaux seront protégés. C'est-à-dire, ils sont là, ils sont désignés, choisis par le réseau. Vous voyez que nous avons un nouveau bâtonnier qui s'appelle Burgu-Buru. Eh bien, M. Burgu-Buru est un franc-maçon. Monsieur Ivens, qui est encore là, est un franc-maçon. Monsieur Tedjen.
Mais ils s'en vendent, je dirais. Ils le savent.
Mais
enfin,
non,
ils
mais le attendez, disent. Attendez, ils le disent pas, bien ils entendu, mais nous le savons.
Parce qu'ils se tiennent.
Il n'y a pas de bâtonnier en France qui ne soit pas franc-maçon.
Ah.
Je parle des bâtonniers du barreau français. C'est-à-dire de Paris, le plus important, qui a 17 000 avocats. Vous ne pouvez pas l'être si vous n'êtes pas franc-maçon. Et il n'y a pas, et comme vous remarquez, actuellement, vous avez 5 bâtonniers qui sont là et qui meurent à la tâche, j'allais dire à la tâche entre guillemets, de l'ordre. Vous avez le bâtonnier Adair, vous avez le bâtonnier Fartois, le bâtonnier Flécheux, vous avez le bâtonnier Lafarge qui est mort. Il faut quand même savoir que son enterrement s'est fait au cimetière Montparnasse, qui est le cimetière franc-maçon.
Enfin, tous les gens qui sont au cimetière Montparnasse ne sont pas franc-maçons.
Non, mais aller là-bas, où tout le monde se tenait la main, autour de la dépouille, madame de la Garanderie, monsieur Vattier...
Vous me donnez, cher maître, une idée. Hein? Il y aurait le meilleur moyen, finalement, ce serait de rentrer tous dans la maçonnerie. Comme ça, leur touche.
Non,
ça
mais nous,
puisque
non.
Tout le monde est franc-maçon.
Vous êtes sûr que maître Paul Albert Ivens est franc-maçon? Je l'ai connu, je suis un peu étonné malgré tout, mais
écoutez, ça fait longtemps que je dois dire que Paul Albert Ivens est un catholique fervent. Catholique fervent qui, en effet, sa mère récemment, ayant appris qu'il était franc-maçon, lui a demandé de jurer, parce qu'elle ne pouvait pas admettre que son fils soit franc-maçon. Elle lui a demandé de jurer s'il était ou non franc-maçon. Il n'a pas voulu jurer. Oui. Bon. Mais il a simplement dit, mais non, maman. Voyez-vous, c'est que quand même...
Voilà, on rentre dans des considérations personnelles.
Alors,
peut-être pas.
Non, ce que je voudrais dire, c'est que nous sommes dans un réseau, et comme vous disiez, qui a en effet fait ses preuves, c'est-à-dire que ce réseau est là pour contrôler la liberté de défense, faire en sorte que les intouchables que je dénonce ne puissent pas être touchés, et à partir du moment Et là, c'est une terreur. Il faut quand même bien voir les choses. Vous avez un exemple hier. Alors, d'abord, je voudrais vous dire qu'il y a eu un précédent en 1911. Un avocat qui s'en était pris à la franc-maçon a été immédiatement radié. Le deuxième, c'est moi-même. En 2002, parce qu'entre temps, vous voyez, ça a porté comme exemple, puis personne n'a osé oui, s'en prendre la franc-maçon.
Un vaccin qui demande une piqûre voilà. De rappel tous les siècles.
Sans doute parce que j'ignorais en effet que cet avocat était radié. Il fallait un siècle pour l'oublier. Un siècle plus tard, en 2002, je suis donc le numéro 2.
Et Bruno Gollnisch voulait qu'on fasse un ordre des journalistes. Non, mais vous vous rendez compte, je serais raté.
Non, je dis que ça existe au Liban.
Non, je blague.
Ça ne nuit pas à la diversité des journalistes. Et il et semble qu'il
je dois dire
les journalistes libanais aient plus de déontologie que certains leurs confrères.
Non, c'est pas difficile.
Français, c'est tout.
Voyons voilà, les choses.
Pas de la parenthèse.
Voyons les choses très clairement. Je n'en veux absolument pas à la franc-maçonnerie en général, puisque c'est une croyance comme une autre.
Ah, je ne dirai pas ça. Hein.
Oui, mais moi...
Vous aurez votre tour, docteur, pour dire du mal des francs-maçons.
Oui, mais moi, j'en veux simplement à ceux qui se servent de la franc-maçonnerie. Vous savez, je disais une chose qui était claire. Vous avez des gens qui sont jeunes et qui obtiennent immédiatement la Légion d'honneur. Pourquoi ? Pourquoi ? Qu'ont-ils fait de particulier ? Sont-ils les grands ténors du barreau ? Ils ont la Légion d'honneur. Or, j'ai toujours dit qu'un signe distinctif était cette cumulation de l'ordre du mérite et de la Légion d'honneur. Quand vous voyez quelqu'un, et surtout au barreau, on les voit, c'est le signe de reconnaissance. La Légion d'honneur et le...
Moi, je croyais que c'était un signe d'appartenance à l'Automobile Club, parce qu'il y avait rouge, bleu presque vert, et j'ai jamais compris pourquoi ils portaient pas de jaune, sauf certains qui ont la... Comment appelle-t-on ça le poireau, c'est vert, d'ailleurs, oui. Non, il manque le jaune, mais autrement, ça fait un joli petit feu tricolore.
Donc, je voudrais quand même que vous compreniez comment on peut radier un avocat en France. Si j'avais, et vous lirez, on peut lire dans le bulletin du bâtonnier, quelqu'un qui a détourné 80 millions de francs en les empruntant sur son compte Carpa. Celui-ci a eu un an de suspension avec sursis. Quelqu'un qui a violé le secret professionnel, celui-ci a été suspendu pendant quelques mois. Je donnerai, d'ailleurs il y a des noms très célèbres, d'avocats très célèbres, qui même n'ont eu rien du tout alors qu'ils ont violé le secret professionnel, qui me paraît le crime ultime, comme le prêtre, qui violerait le secret de la confession. Eh bien, ceux-là n'ont que des petites peines. Or, l'ordre de bâtonnier, l'ordre de parisien, vient vous démontrer qu'il y a un crime plus fort que tous les crimes et qui est donc contre l'honneur, mais attendez, pas l'honneur en général, contre l'honneur de la profession d'avocat. Vous voyez très bien pourquoi contre l'honneur, parce que la loi d'amnistie dit que tout était amnistié sauf les faits contre l'honneur. Alors c'est très simple. Qu'a fait l'ordre des avocats ? Il l'a dit, vous voyez, par exemple, la phrase que je vous ai dit tout à l'heure, en disant à un bâtonnier qu'il devrait consulter, c'est contre l'honneur. Or, puisque j'ai dit que c'est contre l'honneur et que les faits non amnistiés sont ceux contre l'honneur, donc les faits qui sont reprochés à Bernard Méry ne sont pas amnistiés. Vous savez l'histoire, la brune que j'ai vue à Boulogne, l'anglais qui arrive est brune. Donc, puisque la brune habite Boulogne et qu'elle est française, c'est que les françaises sont brunes, donc toutes les françaises sont brunes. Eh bien là, c'est pareil. Maître Méry, alors, et alors, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a quand même des principes. L'avocat, on ne peut pas le poursuivre s'il fait son métier, c'est-à-dire s'il écrit des actes. En principe, c'est toutes les arrêts des cours de cassation, la loi protège celui qui écrit. Et même vous, n'importe qui va devant un tribunal et qui dit « il y a la liberté totale de parole pour le droit de la défense ». Eh bien, là, vous avez quelques avocaillons, il faut le dire, alors même des célèbres. Imaginez-vous que contre un de mes juges qui s'appelle Thierry Herzog, qui est donc une vedette du droit pénal, quelques jours avant qu'il se saisisse, et il est mon juge, je lui reproche d'avoir pris 200 000 francs en espèces sur une femme parce que son mari était en prison, pendant qu'il était en prison, je lui demande de restituer avec des témoignages. Et après avoir pris ces 200 000 francs en espèces, donc non déclarés, Eh bien, ce monsieur à qui je demande la restitution est mon juge. Comme je lui dis que je vais le poursuivre s'il ne restitue pas, eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Il radie. Et il n'y a plus de problème.
Alors mais voilà, on en est. Quel est votre recours maintenant dans cette
situation? Alors, le recours. Mais je voudrais simplement dire un autre mot, ça sera le dernier, dans la matière, la méthode. Ils en déduisent que si je fais des actes pour des clients, ils disent, il n'est pas possible que ça soit avec l'accord de vos clients. Et vous, c'est écrit. Ils ne me demandent pas de montrer mon mandat. Ils ne me demandent pas de montrer que toutes les citations que je faisais étaient consignées par le client. Ils en déduisent que j'ai soudoyé le client pour obtenir un mandat et que j'ai donc mené un combat personnel, imaginez qu'un avocat va, que les clients vont payer un avocat, peut-être aussi cher, pour pouvoir combattre son combat personnel. Alors que grâce au combat que j'ai fait de dossiers de gens perdus, spoliés, j'ai gagné ces procès. Par la stratégie, par le fait que je mettais en cause la responsabilité. Tenez, des magistrats de la cour d'appel de Pau, où je dénonçais que ces magistrats avaient ignoré qu'une personne était morte pour pouvoir spolier les biens de mes clients, et que ces clients, quand je suis arrivé, ont vendé leurs biens aux enchères, que j'ai fait stopper tout cela, et que j'ai obtenu ensuite une cassation. Et là, je suis poursuivi pour ça dans ce dossier, où on ignore la cassation, c'est-à-dire que les juges m'ont donné raison, et que ensuite j'ai fait annuler le contrat qui avait été validé pour faire vendre, et que maintenant on est en appel et qu'on est en voie d'appel, et que depuis que je suis là, ces gens n'ont pu payer un sou de dommages intérêts, mais en plus, moi j'ai fait condamner ce qu'ils avaient fait condamner à rembourser. Et on me condamne pourquoi? Parce que comme j'ai gagné juridiquement, et qu'il ne reste plus que quelques degrés, où on ne peut pas ne perdre dans ce dossier tellement il est évident, puisque j'ai démontré que la personne étant morte, eh bien, il y avait des conséquences juridiques qui faisaient qu'elle était morte et qu'on ne peut pas dire qu'elle était vivante. Et donc, on sait qu'on va gagner, et comme j'ai attrait ces magistrats en responsabilité, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On supprime l'avocat. Et comme ça, on met un franc-maçon ou un autre qui va dire « Non, je me désiste pour les clients. » Et puis les clients, ils n'auront pas leur mot à dire. Et puis les magistrats ne seront pas poursuivis. Voilà où on en est
dans ce dossier. On finirait par douter de la justice de notre pays.
Mais attendez, il faut en douter. Il faut en douter parce qu'il y a beaucoup de juges honnêtes. Mais il y a tous ceux qui sont arrivés justement au fait de la gloire. Eh bien, il faut reconnaître que s'ils sont arrivés comme ça... Écoutez... Un Burgelin, il faut en parler, procureur général.
Allez, j'aimerais mieux qu'on ne fasse pas de quatre personnes, parce on va cumuler un petit peu les
amis. D'accord, excusez-moi.
Quel est votre recours maintenant?
Alors, le recours, moi, je peux vous dire que tous mes dossiers, j'ai été obligé de les distribuer. Je les ai donnés à droite, à Pierre, à Paul, à Jacques, gratuitement, parce que moi, je n'ai pas envie de faire de l'argent sur mes dossiers. Les clients sont atterrés. Les clients me supplient de les défendre. Demain, je vais plaider à Bayonne, non plus en tant qu'avocat, vous imaginez, devant un tribunal, uniquement parce que c'est un GEX où la profession d'avocat n'est pas obligatoire. Je vais donc me présenter en civil devant des confrères qui m'ont connu, et je vais arriver avec un mandat spécial pour pouvoir quand même plaider, parce que comme je suis radié, l'affaire, elle continue. Et si le client se présente sans avocat, il va donc perdre son affaire. Donc je vais plaider demain, mais non plus en tant qu'avocat, je plaiderai en tant que quidam.
C'est quand même un vrai.
Et alors, quel est les recours? Eh bien, on peut aller devant le premier président, mais comme ils ont inventé ce fameux article 23, même si c'est absurde de dire que quelqu'un qui est radié, c'est définitif, eh bien, qui serait suspendu à titre provisoire après, c'est quand même, on est dans l'absurdité totale. Mais ils s'en moquent de l'absurdité totale. Vous comprenez très bien que ces gens-là n'ont rien à faire du droit. Il s'en moque, il construit. Regardez, il me condamne alors que j'avais interjeté appel, c'est-à-dire j'avais fait appel d'un précédent jugement et il devait s'arrêter, puisque un appel est suspensif et dévolutif, c'est-à-dire qu'ils sont dessaisis d'office par l'appel. Eh bien, eux, qu'est-ce qu'ils font? petit statut sur la recevabilité. Ils disent non, votre appel n'est pas recevable. Alors voyez des gens qui sont censés être des juristes. Enfin, on devrait considérer que les meilleurs sont là. Eh bien, ces gens-là se moquent du droit et, je vais vous dire quand même, j'ai rencontré hier M. Evans dans les couloirs. Nous avons tous les deux hésité. Est-ce que nous allions tourner la tête à droite, chacun ne pas vous voir? Et j'ai fini par dire, vous qui passez sans me voir, vous savez, selon la fameuse chanson. Et nous sommes arrêtés, j'ai dit, Monsieur Evans, pourquoi avez-vous fait cela? Et il m'a dit, c'est parce que vous êtes un paranoïaque et que le paranoïaque est un danger pour la justice. Mais je dis, monsieur le bâtonnier, c'est parce que vous avez écrit l'arrêté. Vous ne parlez pas de paranoïaque. Et alors, je me suis souvenu un jour que je intervenais dans une affaire pénale contre X à Lyon. Et le magistrat, qui était un franc-maçon notoire, mais alors j'avais tout son pédigré, il était même à 33e degré, avait avec rage rendu contre mon client une ordonnance de non-lieu en indiquant dans son ordonnance que son conseil était un paranoïaque. Voyez, et en fait, c'est simple, comme il disait autrefois, que Hitler était un paranoïaque, que Pétain était un paranoïaque parce qu'il s'en était pris à la franc-maçonnerie, eh bien Bernard Méry est un paranoïaque.
Donc un hitlérien,
mais
c'est mieux. Ce qu'on appelle la réduction ad hitlérum.
Mais regardez, si je suis un paranoïaque, je suis un malade. Or, on ne condamne jamais en droit français un malade, on le soigne. Si je suis malade, je ne suis pas responsable de mes actes. Alors vous voyez, c'est se moquer du monde. Et qu'est-ce qu'il m'a dit encore ce bâtonnier? Quand je lui ai dit, mais attendez, faites au moins un effort de rédaction, faites semblant de connaître le droit. Il m'a dit, la Cour s'en chargera. C'est-à-dire qu'ils savent déjà que la Cour va confirmer, parce que c'est un ordre qui vient de tout haut, car je me souviens d'avoir vu dans mon dossier une lettre de Madame Lebranchu, qui était franc-maçonne, on savait que c'était pas ça, et bien que Madame Lebranchu disait, mais pourquoi n'arrivez-vous pas encore à le chasser? Mais qu'est-ce qui fait que vous ne l'avez pas encore ici? Ils ont mis 4 ans de procédure où je me défendais tous les jours en défendant mes clients. Eh bien, c'est ça. Alors, qu'est-ce qui me reste? Eh bien, un recours devant le premier président, ça sera le 15 janvier. Mais le premier président, vous pensez bien qu'ils sont en train déjà, qu'ils ont déjà rendu leur décision et ensuite un appel. Mais figurez-vous que dans l'appel que j'avais fait dernièrement, je vous le dis parce que c'est encore, il faut savoir comment se passe le droit. Eh bien, mon avocat, qui était absent et devait plaider ailleurs, a envoyé une lettre à la Cour en disant « Je ne peux pas être là parce que je plaide ailleurs pour une affaire pénale. » Eh bien, il demandait un renvoi même à 6 jours. Et la Cour a indiqué qu'elle rejetait la demande de renvoi. Mais,
ça c'est incroyable.
Mais constater l'absence d'avocat et l'absence évidemment du client, moi-même, pour en déduire que j'abandonnais mon recours. Alors voilà, il n'y a plus de procès. Et ça se passe en France. Il faut que vous sachiez qu'hier ou avant-hier, un avocat qui venait sur une garde à vue. Un avocat, un jeune avocat qui venait sur le garde à vue, qui exigeait d'officier de police judiciaire qu'il respecte les droits de la défense et surtout qu'il avertisse, vous savez, les fameux droits préalables, vous avez le droit de ne pas parler, de ne pas répondre. L'officier de police qui refusait d'appliquer ce fameux article 63 que tout le monde connaît, et des droits élémentaires, ce qui se passe, vous savez, dans tous les films américains, vous avez le droit, etc., de ne pas parler, de parler qu'en présence de votre avocat, etc. Eh bien, l'avocat insistant, exigeant que ça soit noté que l'autre refusait, l'officier de police judiciaire a téléphoné au procureur de service de Paris et l'avocat s'est retrouvé en garde à vue pendant une nuit. Et que le procureur a dit « ça lui fera les pieds » et que le bâtonnier Evans a dit « ça ne nous concerne pas, il avait qu'à être modéré ». Voilà où nous en sommes. Donc sachez que l'ordre des avocats n'est pas là pour défendre la liberté, mais au contraire est là pour nous faire taire et nous museler. Et je dis attention, il y a un grand péril de la défense et je pense à une affaire, vous comprenez, quelqu'un, j'ai une affaire qui devait plaider aux assises le 10 février. qui est une affaire ou qui est grave, qui risque de mettre à perpétuité des gens. 2 ans d'instruction, 2000 pages, moi je les connais, qui va pouvoir les connaître? Eh bien, il y a quand même un article 275 qui dit dans le code de procédure pénale qu'à titre exceptionnel, le mis en examen peut désigner son ami pour le défendre. Eh bien, j'interviendrai dans cette cour d'assises en tant qu'ami, voyez, en civil, pour défendre cette personne. Mais il y a d'autres qui méritent également une défense. Je pense à ce père Salleron, que j'estime beaucoup, qui est un prêtre qui a été odieusement accusé de viol sur une jeune fille, sur des jeunes filles. Et après 2 ans de procédure, ils n'ont trouvé rien de plus que les 3 fameuses jeunes filles initiales qui avaient été presque torturé ou invité, qui avait été par un dénommé Trousselard, qui est un prêtre qui chasse les sectes comme on chasse les mouches, et qui n'est en réalité qu'un petit documentaliste de Soissons, et qui, parce que ce père Trousselard, qui lui également fait partie de la franc-maçonnerie, eh bien, avait décidé que le père Salleron, qui avait beaucoup de gens dans ses églises, où les gens priaient, où je les ai vus prier avec ferveur, parce qu'ils croient en Dieu, parce qu'ils croient, c'est leur droit de croire à Michel-Ange ou à l'archange, vous savez, ou de croire à l'exorciste. Eh bien, ce prêtre est toujours tenu, maintenant je l'ai fait sortir de prison quand même, mais il est toujours bloqué dans la campagne, et je crois que mon temps est largement passé, mais je vous remercie.
Merci de m'avoir, de nous avoir fait accomplir cette plongée dans les abysses d'un univers qu'on n'imaginait même pas. Merci.
C'est terrifiant.
Ben voilà, j'aurais préféré qu'on passe du Mozart, puisqu'on était en train de dire du mal des maçons, ça aurait mis un peu... Mais bon, il n'y avait pas de Mozart sous la main. Docteur, oui. Qu'est-ce que vous allez encore dire de mal?
Voilà,
dans alors, le cadre de notre émission justement. De promotion de la franc-maçonnerie.
Voilà, tout d'abord, enfin, je prends peut-être le train un peu en retard, à savoir qu'on a, très vite, on a parlé du 21 janvier, la mort du roi. Eh bien, je pense que le... Peut-être je l'ai déjà dit ici, je ne sais plus, mais je pense que le déicide a précédé le régicide. Le roi a été exécuté le 21 janvier 93, et le déicide date du 26 août 1789, à savoir que dans l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme, qui est une déclaration maçonnique, eh bien, il est dit, c'est la phrase de Rousseau, la loi est l'expression de la volonté générale. Ce qui veut dire, ce qui revient à dire, que ce n'est plus ni Dieu, ni le droit naturel qui décide, ni le décalogue, ni les choses là, c'est l'homme seul, n'est-ce pas, la loi est l'expression de la volonté générale, l'homme seul ou en assemblée. Donc, Dieu est détrôné, et... Enfin, c'est une révolution athée, bien entendu. Le fondement de la civilisation disparaît, et c'est le subjectivisme des francs-maçons. Alors, la deuxième chose, ça c'était pour le déicide, la deuxième chose c'était pour la Côte d'Ivoire. Je suis resté 6 ans en Côte d'Ivoire, j'étais médecin, ouais. Et j'étais pédiatre à Abidjan, et là, bien entendu, je me suis promené pas mal en Afrique, et j'ai pu voir qu'il y avait dans tous ces pays côtiers, en gros, un sud chrétien, qui était du côté d'où étaient venus les Portugais, les Français, donc le sud était chrétien, et le nord musulman. Les nord arrivaient par le... Je veux dire, les musulmans arrivaient par le nord, et les chrétiens par le sud. Et en gros, ça fait deux... pas des ethnies, parce qu'ils se ressemblent, quoique, évidemment, ceux qui viennent du nord sont plutôt... ce sont des mossis, enfin bon, ce sont... enfin, il y a 84 ethnies en Côte d'Ivoire, 84. Et je me souviens de Mans...
C'est pour ça que ça marche bien, parce que c'est une...
Oui, et c'était très bien tenu par Oufé Balu. Je suis arrivé là-bas en 62, et il y avait un paradis terrestre, je dirais, c'était Mans. Mans où on s'est battu, j'avais des larmes en entendant parler de Mans. Il y avait le monton Coui, il y avait des papillons de toutes les couleurs, il y avait des grenouilles vivipares que l'on venait, qui étaient très rares, que l'on venait chercher pieusement, qui étaient là, un endroit je crois unique au monde. Et il y avait des fougères arborescentes, enfin un paradis. Et c'est à 800 mètres de haut, quelque chose comme ça, enfin Mans lui-même. Et donc les Européens montaient volontiers là, il y avait un campement où on pouvait se reposer, c'était très agréable. Je garde le meilleur souvenir. J'ai beaucoup aimé les Ivoiriens. J'avais de très bons rapports, aussi bien qu'avec les musulmans qu'avec les, qu'avec les... Je voyais les enfants, puisque ça allait de 0 à 6. J'ai vu des trucs extraordinaires, par exemple, une histoire très rapidement. Un jour, on m'amène une petite fille, très mignonne, une petite fille de 2 ans, et elle avait eu la rougeole, elle était toute blanche, parce qu'on lui avait mis de la poudre. Ils vont voir le sorcier avant, ils mettent de la poudre. Ça. Et la pauvre, elle avait les yeux fermés. Et donc elle s'assoit sur la table, parce qu'il y a une petite table pour les enfants, très pratique. Et alors, elle était juste en face de moi, elle se tient les yeux fermés, effectivement. Alors, j'ouvre un œil, et mon Dieu, je vois que l'orbite était vide. Elle avait eu donc une rougeole, enfin c'est une reconstitution, une rougeole, et donc elle avait dû infecter faire une conjonctivite, kératite, une infection, enfin une fonte purulente de l'œil, et ça évidemment ça se voit assez tard. Elle aurait eu quelques colis, vous voyez, c'était mieux que le sorcier évidemment, avec des antibiotiques. Alors je me suis dit, bon Dieu, heureusement, c'était en 64, je crois, quelque chose comme ça. Je me suis dit, heureusement, elle a l'œil gauche. J'ouvre, elle avait aussi l'œil gauche fermé. J'ouvre l'œil gauche, le cristallin me tombe dans la main. Oh. Donc elle était la pauvre petite. Je pense à elle. Elle avait 2 ans, 2 ans et demi, et c'était en 64. Alors faites le compte maintenant. Alors je vois comment ils font les pauvres. On les voit souvent au marché. Les aveugles se regroupent un peu ensemble. Ils vendent des petites misères, des clous rouillés. Je ne sais pas comment ça peut avoir du succès. Mais il y a, vous savez, en Afrique, une grande solidarité. Ils ne seront jamais abandonnés ni par les villages, ni par la famille, ni même. Alors, ils ne seront pas vraiment malheureux, mais c'était une jolie petite fille. Alors, la mère pleurait. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? On n'allait pas l'attraper. C'était l'Afrique. C'est-à-dire qu'il y avait des... Il y avait des quand il pleut, comment dire, quand il y a des pistes, c'est impraticable. Et il y a le sorcier, il y a toujours ça. Et on va d'abord voir le sorcier. Le sorcier, ça prend du temps, ça prend de l'argent aussi. Mais ils sont très, très tenus par ça. Et puis, vraiment, ça ne va plus. Alors, ils vont voir les Blancs. Et mon Dieu, ça, c'était malheureux. Enfin, il y aurait beaucoup de choses à dire sur la Côte d'Ivoire. Mais j'ai peur que là-haut, au nord, ce soit les Libyens, les musulmans qui, finalement, veulent tout prendre, voilà. Veulent tout, c'est l'islamisme.
Comment expliquez-vous, vous avez vécu, la Côte d'Ivoire, ça passe dans notre imaginaire, c'est un pays de haute civilisation, d'une certaine manière. On a l'impression que c'est un pays agréable, où on vit bien, etc. Et puis d'un seul coup, on découvre...
Il y a beaucoup d'animisme. L'animisme est partout. Et
comment expliquez-vous cette espèce de d'insurrection brutale, comme ça? D'un seul coup, ils se jettent les uns contre les autres, ils s'entretuent.
Alors là, franchement, je vois l'islam. Je peux me tromper complètement, mais dès que j'ai appris qu'il y avait quelque chose en Côte d'Ivoire...
Mais au Libéria, au Nigeria, c'est pas l'islam, là.
Non, c'est pas l'islam, mais il y a peut-être des gens qui poussent par derrière aussi, je ne sais pas. La Guinée, j'ai été 3 mois en Guinée, j'étais médecin d'usine à Fria, et bien là, c'était entièrement... c'était presque entièrement musulman. Oui, mais
même si on pousse les gens, il faut qu'il y ait quelque chose dans le... Si vous poussez les Français à se battre, ils vont se battre, ils vont se donner des coups de poing, ils vont peut-être se tirer des coups de fusil.
Alors, il y a toujours...
Mais enfin, ils vont pas s'égorger, se trancher les membres à la machette.
Il y a toujours les ethnies. Moi, je les ai trouvées charmants. Oui. La vérité, je garde. Pour moi, c'est ça. L'Afrique, pour moi, vous savez que la France était très aimée. J'étais au Tchad, j'étais au Soudan, j'étais au Niger, j'étais pas mal d'endroits. Eh bien, je me promenais très facilement. En tant que Français, il n'y a pas de problème. Et la France était très aimée. Il y avait les grandes ennemies. C'est-à-dire que il y avait des camions. Je les connaissais. C'était les collègues qui montaient dans les camions. Eh bien, ils s'occupaient de maladies du sommeil. Il n'y avait pas tellement de maladies du sommeil. C'était surtout en Afrique. Mais enfin, il y en avait aussi. Et il y avait la fièvre jaune. Il y avait la lèpre. J'ai vu pas mal de lèpre. J'ai vu des choses comme ça. Et donc, la France avait un rôle. Mais elle était très... Les infirmières me disaient, mais la France, nous l'aimons. Elles m'ont dit que deux fois, elles m'ont dit ça. Et un peu partout. Enfin. Moi, j'étais très fier de la France. Moi, je regrette qu'une chose, c'est la décolonisation.
Oui.
Je pense que c'est une erreur monstrueuse. C'est-à-dire qu'évidemment, peut-être qu'il y avait on poussait là, mais ils sont tellement plus malheureux maintenant. C'est très dangereux d'aller en Afrique maintenant. Avant, vous la traversiez, je dirais, aucun problème. Ça a été le malheur de l'Afrique, le malheur de la France, le malheur de l'Afrique. Et alors là, l'Amérique qui poussait, les Russes, enfin, les Soviétiques poussaient, évidemment, ils voulaient le gâteau. Mais c'est un malheur pour tout le monde. Je crois qu'il faut que la France revienne. Mais pas sous une forme, pas avec le drapeau bleu, blanc, rouge, peut-être. Mais sous la forme peut-être que qui était un peu la nôtre, c'est-à-dire qu'on venait aider, mais il faut un pouvoir. Hein. Il ne faut pas que l'argent parte directement chez les dirigeants. Il faut qu'il y ait des accords où les Européens gardent encore un certain pouvoir. Et là où sont les Européens, et quand les Noirs ont confiance, ça marche très bien.
Voilà, alors voilà, ça enfin, c'est intéressant que ce soit... Non mais c'est intéressant que vous ayez dit ça, docteur, je vais vous dire pourquoi, parce que bien, tout le monde sait que vous êtes un horrible fasciste, comme vous êtes pour la vie, vous êtes naturellement l'incarnation de l'abomination, de la détestation de l'extrême droite. Et voilà la pensée d'un homme de droite à propos de la colonisation et de
le départ a été un désastre
de la France et de l'Afrique.
J'en suis persuadé, d'ailleurs c'est valable pour tout ce qui s'est passé, que ce soit le Congo, que ce soit le... Enfin bon.
Je pense que c'est intéressant que ce soit vous qui disiez ça
émission. Je crois pouvoir le dire, j'ai bien connu, j'ai beaucoup aimé l'Afrique, plus est.
Cela dit, vous n'oubliez pas les petits blancs.
Alors, je n'oublie pas les petits blancs pour autant. Alors, je voulais dire aussi, c'est une troisième chose, c'est au sujet de la maçonnerie. Cet avocat, tout ce qu'il a dit est vrai, je pense. Enfin, je ne peux pas le vérifier, mais je pense que c'est vérifiable.
Si c'est pas vrai, c'est la seule erreur, la plus formidable imagination qu'il ait vue depuis longtemps.
C'est ça. La seule erreur qu'il a faite, il a dit, après tout, c'est leur droit des francs-maçons. Alors là, je dis attention. Parce que pour moi, la franc-maçonnerie est diabolique. Ça, je l'ai palpé, nous le palpons tous les jours. Bien sûr, on a le droit d'être du côté du diable. Enfin, le droit. Est-ce qu'on a vraiment le droit? Mais il faut au moins qu'ils le sachent. Et je suis sûr que la plupart des francs-maçons ne le savent pas vraiment. S'ils sont francs-maçons, c'est pour céder eux-mêmes, je dirais. Peut-être un vague humanisme, je ne sais pas exactement la raison. C'est très souvent pour prendre le pouvoir, parce qu'on sait très bien que si on n'est pas franc-maçon, c'est très difficile d'être au pouvoir. Il y en a 100 000 en France. Eh bien, ils parlent constamment d'égalité. Ils n'ont que ce mot à la bouche. Il n'y a pas plus inégalitaire que la franc-maçon.
Je pense que vous avez raison.
Puisque c'est eux qui ont le fromage et le gâteau.
Mais je pense, docteur, je dirais que vous avez tout à fait raison de dire que la plupart des francs-maçons sont francs-maçons sans savoir à quoi ils appartiennent.
Les malheureux.
Et ils travaillent pour cette explication en est dans ce que j'ai appelé le syndrome de Léotaxil. C'est-à-dire que quand vous avez... Comment ça a marché? Quand le soupçon a commencé à se porter contre la maçonnerie d'être une secte satanique, il y avait deux solutions. Ou ils se défendaient. Et on sait bien que quand on dit innocence, défendre, ça sert à rien. Où ils attaquaient. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont attaqué en montant toute l'affaire Léotaxil. Il faut lire un livre qui vient de paraître, qui s'appelle « La véritable affaire Diana Vaughan », qui est tout à fait passionnant. C'est un gros bouquin qui n'existe pas dans le commerce. J'espère pouvoir inviter son auteur à ce micro prochainement. Et qui remet en cause toute l'affaire Léotaxil. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Léotaxil s'est dévoilé un beau jour en disant, voilà, moi je suis franc-maçon, je regrette ce que j'ai fait, parce que véritablement c'est une secte sataniste et j'ai assisté à des événements terribles, j'ai vu apparaître le diable, etc. Il a été, à ce moment-là, pris en charge par des organisations catholiques, dont le journal La Croix à l'époque, qui l'ont trimballé dans toute la France en lui faisant faire des centaines de conférences, et lui, il en racontait de plus en plus sur les abominations sataniques de la franc-maçonnerie. Et quand tout le monde a été bien échauffé autour de cette histoire, il a réuni tous les journalistes et il a fait une déclaration. Il a dit, voilà, vous êtes tous des imbéciles, vous êtes des gogos, je vous ai raconté n'importe quoi, tout ça est naturellement totalement faux et vous avez tous marché comme un seul homme, au revoir messieurs. À partir de ce moment-là, il est devenu absolument impossible de dire en France que la franc-maçonnerie était une organisation sataniste, parce qu'à chaque fois on vous disait, bon alors bah, vous êtes en train de nous faire le coup de Léotaxil. Et donc maintenant, quand vous savez de quoi vous parlez à propos de la maçonnerie, vous essayez de voir des gens qui sont maçons en leur disant, écoute, reste pas là-dedans, tu te prends pas compte que tu es manipulé, tu es utilisé, tu es instrumentalisé dans une opération. Les gens te disent, attends, tu vas pas me ressortir les vieilles salades de Léotaxil, non? Voilà. C'est comme ça que ça marche.
C'est comme ça.
Donc vous avez parfaitement raison. Je suis sûr que 80-90% des francs-maçons en France à l'heure actuelle
ne savent pas.
Sont là parce qu'on leur a dit, c'est une société de pensée, attachée à la liberté, à la recherche philosophique, et puis en plus vous faites des amis qui peuvent être utiles, donc entrez donc là-dedans, ça vous rendra des services, et vous verrez, et puis c'est très sympathique, on se réunit une ou deux fois par mois, on fait des banquets, on s'amuse bien et tout, ça permet dans certains cas d'expliquer à Bobonne qu'on est en tenue, alors que justement on est plutôt en petite tenue, et elle n'a pas le moyen de le vérifier, et tout le monde est très content. Mais la réalité...
Mais ce qui est de Satan,
c'est que derrière ça, il y a une véritable profonde saleté.
Ah oui. C'est-à-dire que les francs-maçons n'ont rien créé, bien entendu, mais ils veulent tout s'approprier. Tout s'approprier, la vie, n'est-ce pas? Je veux pas donner, non, je veux pas se faire personnalité, mais...
Il vaut mieux, ce soir on a un peu la dose là.
Oui, non, mais il ne faut pas. Non, mais ça m'intéresse pas d'ailleurs. Mais c'est vrai que l'euthanasie, ce sont les francs-maçons. L'avortement, ce sont les francs-maçons. Ils le disent eux-mêmes dans les loges. Ils le disent. Et alors, le laïcisme. Je dirais une chose, j'étais en Pologne. Il y a déjà un certain temps, c'était juste avant d'entrer en prison. Eh bien, j'ai rencontré, j'ai eu cette bonheur de rencontrer un certain Monseigneur Majdanski, qui était de 1912. Et il est cardinal, il est archevêque à persona, à titre personnel. Parce qu'il y a, je ne sais pas si vous savez, il y a deux archevêques à Varsovie. Il y en a un qui est pour la même ville, mais il y en a un qui est primat de Pologne. Je ne sais pas exactement si celui de l'Est ou de l'Ouest. Enfin bon, il y avait un troisième archevêque ad personam, Monseigneur Majdanski, qui était un ami du pape, un peu plus âgé que lui, qui le connaissait bien. Il nous avait reçus. Et ce malheureux archevêque de Stettin-Kamien, il avait été évêque de Stettin-Kamien, donc à l'embouchure de l'Oder, il avait été pris par les Allemands en 1940. Il était à ce moment-là en dernière année de séminaire. Il a été emmené à Sachsenhausen, près de Berlin. Puis après, il a été à Dachau, près de Munich, où il y avait, je crois, 3800 prêtres, dont 1800 prêtres polonais. Il a été mis dans une infirmerie, mais il n'était pas malade, c'était pour expérimentation. On lui a injecté, je crois, des produits dans la cuisse. Je crois que c'était pour des abcès de fixation. Il y avait Saint Schultz qui était là, et qui l'observait, et qui l'a rencontré ensuite en 56 à Munich, où il lui a serré la main à son ancien, un homme donc remarquable. Et il disait ceci, lui qui avait connu les camps allemands, lui qui avait connu les horreurs du bolchevisme, parce qu'il était rentré après en Pologne, eh bien il disait pire que le bolchevisme, pire que le nazisme, le fondamentalisme laïque. Alors je dis, mais Monseigneur, vous voulez parler du laïcisme? Oui, c'est ça, du laïcisme. Alors qu'est-ce que c'est que le laïcisme? Le laïcisme, c'est l'athéisme, c'est l'athéisme d'État. Et c'est là, ça je dirais, l'athéisme d'État, c'est la définition même, au fond, de la maçonnerie. C'est-à-dire que Dieu est chassé...
On est en train de le vivre aujourd'hui, d'une façon officielle. J'entendais l'autre jour une émission, je crois que c'est sur France Musique, où le présentateur, annonçait un concert. Il a dit, nous allons diffuser la prétendue passion de Jésus-Christ, la prétendue passion de Saint Matthieu. Il a donc ajouté le mot prétendu pour montrer que lui n'en était pas. Et ce matin encore, je ne sais plus sur quelle station, il y avait une femme qui parlait des soins palliatifs et qui disait, dans notre prétendue culture judéo-maçonnique, judéo-chrétienne. Dans notre prétendue culture judéo-chrétienne. Et on sentait qu'elle disait ça pour s'abstraire, en quelque sorte. On n'est pas de culture judéo-chrétienne, surtout pas chrétienne, en tout cas. Il faut surtout pas dire ça. C'est quand même extraordinaire d'en arriver maintenant officiellement, de même que dans les écoles, on ne célèbre plus Noël. Ils appellent ça l'arbre de vie, maintenant. Quand on met un arbre de Noël dans le hall de l'école, quand ça arrive encore, les institutrices disent « c'est l'arbre de vie ». Donc on n'a même plus le droit d'utiliser le mot Noël. Bien entendu, on ne fait pas de crèche, ça va sans dire. Mais il y a une laïcisation totalitaire et violente qui est en train de se dérouler.
Et alors, moi je dirais que là, Dieu sait si les nazis et les bolchevistes ont fait les morts et tout ça, mais ça n'a rien à voir avec les morts maçonniques, qui se comptent par... J'ose pas dire milliard, parce que c'est peut-être pas eux qui ont fait tout le milliard d'avortements de l'ONU réclamé. L'ONU avait dit en 97 qu'il y avait un milliard d'avortements étalés sur 20 ans. Alors, bon, je veux pas dire que en Chine, c'est eux qui ont fait l'avortement, etc. Mais le planning familial, Rockefeller, la trilatérale et tout ça, ce sont eux. Et alors, je dirais, à mon avis, c'est beaucoup plus d'un milliard, parce que il y a tous les morts par contraception. Ce mot très discret de contraception, en fait, cache beaucoup plus de morts que l'avortement proprement. avortements chirurgicaux. Et c'est ce qu'ils veulent introduire notamment en Afrique, sous prétexte de vaccins, sous prétexte de poudre de lait, je ne sais pas quoi. Ils veulent stériliser l'Afrique, quoi. Mmh. Au fond, ils veulent stériliser le monde, c'est très curieux, le monde, c'est un refus de la grâce, et c'est un refus de la création. Ce sont des diaboliques. Jamais on n'a autant tué.
Comme le diable ne peut pas créer, la seule façon qu'il a de s'opposer
c'est de détruire.
À la création de c'est Dieu, détruire. C'est de la détruire.
Et alors le pire, c'est peut-être pas là le pire. Vous me direz, bon, ça fait des milliards de morts, entendu, mais le pire, c'est l'éternité. C'est-à-dire que je pense que c'est ça le pire de la maçonnerie. C'est-à-dire que la culture de mort, dont parle Jean-Paul II, ce n'est pas tellement une culture de mort proprement dit que l'utopie de mort éternelle. Parce que un jour nous allons mourir, nous allons paraître devant Dieu, et bien ce qui intéresse le diable, c'est évidemment qu'on soit nombreux en enfer. Et là je suis persuadé qu'avec la maçonnerie, il a un levier, il n'a jamais eu de levier aussi puissant que celui-là. Donc je dirais, nos adversaires, il n'y a pas d'adversaire plus résolu contre nous, contre le catholicisme, que la franc-maçonnerie. Ils nous entraînent tous à la damnation, même les catholiques, je dirais, les fameux catholiques libéraux, tenez, ils mordent à l'hameçon, hein. Ils servent la révélation et la révolution, ils veulent servir les deux en même temps, c'est-à-dire Dieu et Satan. Parce que la révolution, c'était Satan. Hein.
Alors, le déicide, on en a parlé. Ne croyez pas à un complot maçonnique, vraiment. Mais je suis obligé de vous dire qu'il vous reste 3 minutes. Alors, nos jeunes camarades qui vont parler après.
Alors, j'ai peut-être assez parlé d'ailleurs, mais juste pour vous dire que nous avons donc une manifestation. Une codam venenum, c'est ça. Eh bien, donc, il y aura une manifestation le 11 janvier au coin de du boulevard Port-Royal et de la rue du Faubourg Saint-Jacques, donc à côté de Baudeloc. Ça sera à 14h à Paris. Le même jour, il y aura une manifestation à Dijon à 14h30 au Bocage, à l'hôpital du Bocage. Ils y vont tous les 15 jours. Et à Maison Lafitte, alors là, tous les maisons Lafitte, je ne sais pas que vous. Non, les maisonniens, on s'appelle les maisonniens, sont tous invités, et tous ceux de Port-Marly, tout ça, sont invités à se présenter à 10h45 en face de la mairie. Là aussi, il y a une manifestation. Nous avons aussi deux manifestations le 18 janvier, l'une à Vannes à 14h30 et l'autre à Roubaix, je crois que c'est 10h30. Voilà. Et alors,
In coda venenum, maintenant.
Alors, in coda venenum, véritablement, c'est que, nous allons prier devant le Grand Orient. Alors là, je demande que les gens écoutent bien, parce que pour nous, c'est très important. Je pense que pas seulement pour moi, mais pour nous tous. Je crois qu'il y a un enjeu très important. Comme c'est la franc-maçonnerie qui mène le monde. Comme c'est Satan, c'est le prince du monde. Son levier le plus puissant, c'est la maçonnerie. Or, en France, un des leviers les plus puissants, je ne suis pas le seul, bien entendu, il y a aussi la Grande Loge de France, mais nous irons aussi devant la Grande Loge de France. Enfin, pour l'instant, vous êtes tous invités à venir nombreux prier, je dis bien prier, parce que nous allons prier pour les francs-maçons. C'est trop bête de les laisser se damner comme ça, il faut au moins leur dire, ils ne le feront pas sans avoir nos prières, je dirais. Et puis nous prierons donc pour nous, parce qu'on en a bien besoin, nous prierons pour nos évêques, qui ne feront rien, et donc il y aura beaucoup de prières là à faire. Alors, ils sont tous, je vous signale que les francs-maçons, je me suis mis un petit peu au courant, vont se réunir là au Grand Orient et ils ne se réunissent pas le samedi. Le samedi, ils sont en vacances, je ne sais pas ce qu'ils font. Mais bon, c'est leur droit.
Et c'est le sabbat. Quoi.
C'est le sabbat, je ne sais pas. Mais en semaine, ils sont là. Alors, il y a pas mal de loges au Grand Orient et ils se réunissent par roulement. Et là, ils arrivent à 8h du soir. Donc, nous serons là un petit peu avant. Je dis tout, je n'ai rien à cacher. Nous serons là à 19h30, 16 rue Cadet.
Si vous avez quelque chose à cacher, c'est
je ne vois pas la raison pour laquelle on nous interdirait. Parce que, après tout, ils disent qu'ils sont tolérants, on verra bien. Et si jamais ils nous interdisaient, parce que ce serait eux qui nous interdiraient, et pas d'autres, n'est-ce pas? Je sais que le préfet de police est un peu dans ces eaux-là, je dirais que l'on me coupe bien jusqu'à la fin, eh bien, ce serait une raison de plus pour y aller. Si nous sommes interdits, c'est une raison de plus pour y aller. Nous avons été interdits 20 fois. On s'est aperçu la première fois que, quand nous y allions, jusqu'à quelques-uns, deux ou trois, c'était les autres qui faisaient la manifestation. Ils étaient 120, 130, les gauchistes alors qu'eux n'avaient pas déclaré, nous avions déclaré, nous étions interdits, eux n'étaient pas interdits, ils n'avaient rien déclaré, c'était eux qui faisaient la manif. Alors les choses vont changer, maintenant interdit ou pas, nous y allons. Alors interdit ou pas, nous allons au Grand Orient le 16 rue Cadet, métro Cadet ou métro Le Pelletier, 9e arrondissement, à 19h30, ce sera un vendredi donc, je crois que vendredi soir tout le monde a fini son travail, sauf ceux qui sont évidemment de garde, mais venez encore une fois s'y approprier. Pas pour bagarrer, hein.
Quel jour?
Vendredi combien?
Vendredi, j'ai peut-être pas bien dit, le 28 février. C'est pas tout de suite. Hein. Mais alors, vous me réinviterez parce que je voudrais aussi.
Vous pouvez compter sur moi.
Je voudrais relancer l'invitation.
Merci, docteur. Merci. Vous êtes vraiment formidable.
Quel courage.
Ah, c'est incroyable. Quel courage.
Ah, là, là. On vous demande, docteur Dor, pouvez-vous nous donner l'adresse où vous envoyez des dons?
Oh, naturellement. Alors, c'est 11 rue Tranchée. 11 rue Tranchée.
Ça s'appelle comment?
Eh bien, c'est SOS Tout Petit. SOS Tout Petit. Ne l'envoyez pas la boîte postale. La boîte postale est fermée. Donc, c'est 11... Ah oui, à ce
propos. Encore un coup, les francs-maçons.
Si, oui, je le pense, parce que... non, je crois la CGT. Ils ne voulaient pas le voir à la boîte, je crois. Et du coup, ils ont fermé. Enfin, c'est... Bon, enfin bon. Je crois. Je sais pas.
Quel arrondissement?
Alors, c'est le 8e arrondissement. 11 rue Tranchée, 8. Alors, les gens de la... nous connaissent. Hein, les gens qui reçoivent le courrier nous connaissent. Donc, il ne peut pas y avoir des tournements. Enfin, je ne pense pas.
Enfin, si vous voulez donner des espèces, il vaut mieux la porter au docteur Dor directement à l'occasion d'un passage à la radio. Parce que...
Alors, c'est vrai qu'on a besoin de pas mal d'argent. En ce moment, on a beaucoup d'affichages. Là, tenez, les affiches, par exemple, pour cette manifestation du Grand Orient, on va tâcher d'en envoyer un peu partout en France. On voudrait que ce soit une manifestation nationale. Eh bien, je crois qu'on aura là aussi pas mal de dépenses. Donc, on a besoin de militants. J'ai aussi beaucoup d'affiches. Là. J'ai 2000 affiches qui dorment en ce moment chez moi. Et elles demandent qu'à être affichées. De très belles affiches, de toute beauté. Bon. On voit un très bel embryon.
Alors, où est-ce qu'on peut téléphoner pour...
Alors, le 01 40 61 06 28.
Répétez.
01 40 61 06 28.
Voilà.
Et on vous félicite. Merci à vous. On vous félicite pour votre site internet qui est très complet et très clair. Bravo, continuez.
Merci au colonel de Pompignan.
Alors, jeunes gens, si vous voulez prendre la place du docteur, qui va s'en aller, qui reviendra, je rassure les auditeurs.
En attendant qu'il s'installe, je dis vite que pour soutenir le combat de l'avocat, c'est-à-dire Maître Méry qui est passé, on peut écrire à l'ordre des avocats pour prendre sa défense et à la chancellerie. Et puis, on peut aussi... Le livre qu'il a publié déjà s'appelle « Les nouveaux parrains ». Et pour l'éditeur, c'est 01 42 25 03 03.
Et vite, si quelqu'un nous écoute encore et sait où se passe et à quelle heure et quel jour la galette des rois de la Restauration nationale, vous l'avez ?
Ah non.
Galette des rois de la Restauration nationale, c'est je crois le 24, mais j'ai malheureusement perdu l'adresse.
Non,
et donc, si vous voulez appeler à la radio, 01, qu'est-ce que c'est le numéro déjà, vite, de la radio ? 46 51 00 85 pour indiquer simplement quel jour ça se passe et à quel endroit et à quelle heure. Je sais que c'est à 20h le 24, mais j'ai oublié l'endroit, la galette de la Restauration nationale. Alors, qui va parler ? Peut-être Tanred ? Qui est, alors j'ai autour de cette table Tanred qui représente la génération montante et il y a Jacques Marchal qui ne représente pas la génération descendante mais qui représente la génération historique hein. Et puis à côté de Tanred il y a la génération juste qui va pousser Tanred dehors et qui est Sacha qui est un jeune dessinateur aussi. Bonjour messieurs. Alors je me tourne quand même avant vers Jacques Marchal qui est une figure historique de la droite nationale, l'inventeur des rats noirs quand même, je l'ai dit tout à l'heure, et le dessinateur du sigle d'Occident, si je me souviens bien.
Absolument pas.
C'est pas toi qui avais créé le dessin du haut Occident ?
Absolument pas. Ah, non, le sigle d'Occident était composé d'une géométrie très simple, voilà, une croix, un cercle.
Mais dessiné un peu dans ton style.
J'ai appris d'ailleurs par mon voisin de table que c'était également l'emblème d'une province japonaise.
Oui, du fief de Satsuma. Oui, la famille de Daimyo des Shimazu, qui ville de Kagoshima, la Naples japonaise. C'était des durs, hein, c'était des samouraïs qui ont fait la restauration de Meiji dans un premier temps et ensuite sont entrés en guerre contre tout le reste du Japon parce qu'ils protestaient contre les réformes qui avaient fait disparaître la caste des samouraïs.
Occident.
Ouais, cet emblème a toujours drainé des histoires comme ça avec lui. Mais enfin, nous sommes rassurés grâce à Bruno Gollnisch. Nous savons qu'il a des racines également dans l'Empire du Soleil Levant.
Mais l'héraldique japonaise, ça c'est très curieux. Parce que le phénomène de l'héraldique en soi, il y a une héraldique japonaise et il y a une héraldique indo-européenne, ouais. Et on étudier les similitudes et les dissemblances quand même, ouais. Est passionnant. Oui.
Eh bien, je vais rebondir là-dessus parce que ce dont doit nous parler Tanred, c'est, sauf erreur, d'une nouvelle revue consacrée au graphisme et au dessin. Et à la bande dessinée.
Alors, c'est pas complètement une revue, c'est un album annuel, effectivement.
Il commence par un annuel. Alors, nous, à Pilote, on a fini comme ça.
On commencera et on finira en quotidien, c'est promis. Voilà, en fait, historiquement, on a commencé à dessiner dans un magazine culturel de jeunesse qui était Quartier Libre. Donc on a commencé à trois dessinateurs. Il y avait donc Aragorn, que vous avez déjà reçu, Cabillaud et Tenred. Et puis petit à petit, on s'était dit que pour notre génération, il n'y a pas beaucoup de tremplins modestes, accessibles, qui nous permettaient de un peu de présenter ce qu'on faisait. Il y avait des lits d'image dont s'occupe Miège. Il y avait également l'Ars Affiche. Mais bon, on ne se sentait pas complètement à niveau, et en tout cas pas pour tout de suite.
Les lits d'image, c'est la génération
au-dessus. Exactement,
il y a des vieux. C'est les fils de Jacques Marchal, dont vous êtes les petits-fils.
Bon, on a commencé par griffonner les rats noirs, effectivement, dans les cahiers de cours.
Bah, comme tout le monde.
Voilà, exactement. Donc ça a commencé comme ça.
Est-ce que vous faisiez aussi, vous les découpiez aussi pour faire des badges qu'on portait au revers, non ?
Ah non, ça restait dans l'agenda. Ah. Mais ça ne plaisait pas maman. Voilà.
C'est curieux.
En papier, ça se déchirait.
Non, c'est ce qu'on collait ça sur les badges qu'on ramassait dans les supermarchés. Ouais, mais voilà, c'est pas la même jeunesse, quoi, il n'y a rien à faire. Donc alors, ça s'appelle Perfax.
Perfax, oui.
Que veut se dire ?
C'est très compliqué. Non, on cherchait un... Historiquement, il n'y a pas vraiment d'histoire. Nous, on a choisi ça complètement par hasard, parce que si donc ça s'écrit donc PER trait d'union FAX, et si on enlève le trait d'union, donc ça donne Perfax, qui est une marque de colle à tapisser qu'on utilisait souvent pour des activités nocturnes.
D'accord.
C'est notre marque fétiche. Donc.
Et puis les dessins sont envoyés par fax probablement.
Pas encore, mais ça viendra probablement un jour. Donc voilà, on scanne tout maintenant. C'était pour rappeler le côté militant en fait de notre objectif.
Parce que c'est vraiment militant.
Oui.
D'accord. Mmh. Quels sont les critères de choix des dessinateurs et des dessins en dehors de l'appartenance militante ? Est-ce qu'il vaut mieux être un bon militant qui dessine mal ou un bon dessinateur qui milite pas ?
Il y a beaucoup de militants qui gribouillent parce que peut-être qu'on n'a pas beaucoup de matière pour les tracts, pour les feuilles d'information des sections, ce sont des choses. Donc on souhaite créer une nouvelle génération, pas sans pousser celle qui est, parce qu'on n'a pas le talent, sans pousser celles qui sont là, mais créer une nouvelle génération, créer une dynamique, en espérant s'inscrire dans la continuité, mais voilà, on se dit que...
C'est syncrétique, il n'y a pas que des royalistes,
il y a de tout, vraiment, ça va très loin même. Mais,
vous ne trouvez pas, Bruno Gollnisch, qu'on néglige un peu ce moyen d'expression dans la droite nationale? On ne fait plus d'affiches marrantes,
si
de tracts illustrés.
Ce serait un mot normal, mais non. Mais il est des crayons qui valent des épées, hein, c'est sûr, non, c'est bien.
Il y a un bon trait. Qui a fait la couverture là, c'est vous ?
C'est moi-même.
C'est excellent. C'est un trait très soutenu, très très vigoureux et tout. Moi, je connais les dessins de Sacha, qui est vraiment un grand dessinateur. Dans si le petit cochon ne mange pas, dans quelques années, il sera exceptionnel.
Je me battrai comme un loup.
Et je sais pas, Jacques, qu'est-ce que tu penses de ça, toi, qui a...
Je pense qu'il vaut mieux être initialement un bon militant qui dessine mal. Parce que si on est un bon militant et qu'on ne trouve pas d'autres personnes pour dessiner à sa place, à force, on va bien dessiner. Oui. Par contre, si on a un mauvais militant qui dessine bien, on va aller gagner sa vie dans une agence de pub, mais on ne t'envoie pas. J'en parle sur la base de mon expérience personnelle. Effectivement, je n'ai pas dessiné les affiches de l'Occident, mais j'ai, disons, contribué à inventer la fameuse graphie des affiches d'ordre nouveau.
J'ai une requête à ce sujet. J'ai une requête. Est-ce qu'on ne pourrait pas en faire une police de caractère qu'on puisse utiliser sur les...
Sous post-script chez Adobe, disponible sous Express, peut essayer.
Ce serait bien, vraiment. Ouais.
C'est vraiment très évident.
On aurait cette police de caractère.
Que j'en revienne à mon petit propos. Il s'est fait
que ne sachant absolument pas dessiner, j'étais mauvais comme un cochon, hein, mais comme j'avais une orthographe à peu près correcte, celui à qui on demandait d'écrire les affiches manuscrites qu'on faisait dans notre fac, bah c'était moi, parce que je faisais un peu moins de fautes d'orthographe que les autres. Bon, de fil en aiguille, on m'a dit, oh, fais des titres un peu plus beaux, mets des crobards pour aérer, puis voilà, j'ai appris à dessiner sur le tas, comme ça. C'est pour ça, je répète, il vaut mieux être un bon militant qui dessine mal que l'inverse. Fin de la parenthèse.
Quels sont les sujets qui irritent, qui excitent votre faconde dans Perfax? L'actualité politique,
C'est vraiment en fonction des affinités de chacun. Sacha qui est là, lui, il est...
un peu mytho, Sacha.
Un peu fleur power, Nietzschéen.
Ah bon?
Il y a des fleurs partout, du soleil.
Voilà, c'est plus lié à une culture particulière.
Oui, mais c'est le côté serbe là qui parle.
Et voilà, c'est ça, c'est l'expatriation qui souffre. Et, donc voilà, donc après il y a Aragorn qui raconte.
Aragorn, c'est les petits lutins, c'est charmant, vraiment, c'est rigolo voilà, comme tout. C'est les petits militants qui sont vraiment authentiques. Il n'y a pas de problème. Ils vont en collage, mais ils aiment bien aussi regarder la jolie fille qui passe. Ils préfèrent poser le pinceau de colle pour attraper le manche de pioche parce que. Mais à condition quand même qu'en face ils soient pas trop nombreux.
Oh ben, je crois qu'ils ne se gênent pas à 2 contre 500, ils en savent.
Mais voilà. C'est très rigolo. Hein.
Donc il y a Cabillaud, lui qui est plus. Lui c'est un roi copur et dur, donc il va décliner Marianne, je ne vais pas dire toutes les positions.
Et d'une façon peu amène, j'imagine.
Et exactement. Sinon.
Il y a du texte?
Oui, beaucoup. En ce qui me concerne, moi je n'avais pas tellement le temps de réfléchir à des scénarios, enfin parce que j'avais un peu l'organisation générale, donc j'ai un scénariste qui a écrit les textes, donc ça parle d'immigration, ça parle d'encagoulé, ça parle de tout ce qui nous touche, de tout ce que vous avez...
Il faut le lire maintenant, où est-ce qu'on peut l'acheter, quel est son prix et comment peut-on se le procurer?
Alors c'est en librairie c'est 8 euros, mais donc par correspondance 8 euros également, port compris. Donc c'est AJTA chez Son Liberté, PO 194, 23 rue Le Courbe, dans le 15e.
Bon, alors répétez-le parce que oui. Lentement.
Donc Son Liberté, PO 194, 23 rue Le Courbe, 75015 Paris.
Et donc, ma petite femme va encore hurler, mais demain, le numéro, l'adresse sera disponible au Libre Journal. Vous pourrez téléphoner pour qu'on vous le communique. Je fais une grosse bise à ma femme en lui demandant pardon.
C'est adorable.
De lui donner ce surcroît de travail, mais elle a l'habitude maintenant. Et on vous indiquera l'adresse où vous pourrez, moyennant 8 euros, trouver Perfax, puis on pourra peut-être même vous l'envoyer par l'intermédiaire du Libre Journal. Voilà.
Voilà, donc merci, chèque à l'ordre de Son Liberté.
Chèque à l'ordre de Son Liberté.
Merci à toi,
merci. Et puis, à très bientôt.
À très bientôt.
Vous donner des nouvelles du prochain numéro. Jacques, ils avancent avec ta bénédiction?
Complètement. a-t-on mentionné que l'admirable Char participe?
Ah ben voilà, c'est fait.
Voilà.
Et notre Char, Conque, Ignace, préfacé par Alain Sanders.
J'avais des annonces, je vous fais. Vite. Alors, vous avez entendu pendant la coupure Maxis de Augustin Barrios, CD BMG, 74-321-574-242. À la librairie Armes et Racines, 11 Place Saint-Louis à Versailles, le samedi 11 janvier de 14h30 à 18h30, Olivier Pichon dédicacera son livre « Dernière nouvelle du mammouth ». La galette des rois, présidée par Bruno Gollnisch avec Jean-Pierre Revaux, aura lieu au forum de la Croix-d'Hiver, 5 rue de la Croix-d'Hiver, le dimanche 12 janvier à 15h. Inscrivez-vous au 01 45 22 25 91 et le 26 janvier, tous aux urnes, dans le 17e, la 17e circonscription. La galette des rois de la Restauration nationale aura lieu salle de l'Asiem, 6 rue Albert de la Parent dans le 7e, le mardi 14 janvier à 19h30. À 20h, Jacques Trémolet de Villers et Hilaire de Crémier parleront de Maurras, maître en poésie. Participation aux frais, 10 euros.
Merci, bonne semaine, que Dieu nous garde.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national à Paris sur 95 MHz 6, à Caen sur 106, à Chartres sur 104.5, à Cherbourg sur 87.8, au Havre sur 101.1, au Mans sur 98.8. Pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS et pour le monde entier sur le site internet tv-radio.com. Vous venez d'entendre le libre journal de Serge de Bekech avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 8 janvier de 18 à 21h, en différé jeudi 9 dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal a été réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative afin de sauvegarder une indépendance.